Gameblogueurs, gameblogueuses, bah bien le bonjour, bienvenue dans les podcasts de Gameblog, épisode 168 aujourd'hui, un épisode des podcasts de la rédaction qui vous est dédié, vous directement, lecteurs et lectrices de Gameblog, puisqu'il s'agit du troisième courrier des lecteurs. Vous le savez, une fois par mois, nous vous demandons dans les forums de Gameblog.fr de nous donner des thèmes de débat, de rebondir sur l'actualité, et comme ça, ensemble, après, on sélectionne les meilleures questions. Et là, j'en ai quand même 5 pages de questions.
C'est trop.
C'est beaucoup. mais c'est vrai que ce mois-ci, vous avez été particulièrement inspiré. Beaucoup de bonnes questions. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet immédiatement avec Raon, Julo et Traz.
Bonjour.
Bonjour.
On est très content de vous retrouver.
Messieurs, c'est parti, on va commencer directement. Je l'ai découpé en deux parties, une partie dédiée vraiment aux questions jeux vidéo à proprement parler, l'industrie, et puis les questions qui concernent un peu plus directement gameblog.fr, le site. Ça, ce sera en deuxième partie de ce podcast. Allez, on commence avec une question de Petit Vert qui nous demande: depuis des années, de nombreux créateurs et joueurs militent pour que le jeu vidéo soit reconnu comme un art à part entière. D'un autre côté, la dématérialisation est un mode de distribution qui prend un essor phénoménal, et certains évoquent, souhaitent même, la possibilité disparition de tout support physique. Or, j'ai l'impression que la dématérialisation favorise l'immédiateté au détriment de la pérennité dans le temps. Par exemple, qui dit que Limbo sera toujours facilement trouvable dans 10 ans ? D'où ma question, ce mode de distribution n'entrait-il pas en contradiction avec la volonté que certains ont de vouloir faire du jeu vidéo un art ?
Wow.
Pierre, tu as dignement ouvert les hostilités. Messieurs, je me tourne vers vous.
Question suivante.
C'est une excellente question, et c'est marrant parce qu'on en parlait il y a pas tellement longtemps avec Cyril Drevet,
qui a un avis très tranché sur la question.
Alors c'est la question d'après.
Mais c'est effectivement lié à la dématérialisation et à la conservation de ce qu'on peut appeler un patrimoine. C'est-à-dire, est-ce que dans 10 ans je peux ressortir mon disque dur et rejouer à Limbo sur Xbox? Si t'as pas de Xbox fonctionnel, a priori ça va être compliqué. À moins qu'évidemment
que ce soit lié à un compte
et que le compte perdure avec les éventuelles futures machines.
Mais là il parle des gens et des gens qui aujourd'hui sont très jeunes et qui voudront découvrir Limbo dans je ne sais combien d'années, qu'il n'y aura plus de Xbox 360, ou alors tu devras aller dans les boutiques d'occasion acheter une Xbox 360 avec Limbo dedans, en fait.
Ah, ça ce serait la pire des solutions, effectivement. Mais la meilleure, ce serait que la prochaine console de Microsoft soit rétrocompatible et dématérialisée, et que le service du Xbox Live, et donc du Xbox Live Arcade, et de tout ce qui est, tous les contenus qui sont sortis sur Xbox soit conservé et donc perdure et soit accessible, même si c'est en téléchargement, à l'avenir. Et ça c'est un truc, je pense que personne peut vraiment répondre à cette question maintenant. Est-ce que ça va se faire comme ça ou pas?
Ça dépend de l'échéance, quoi. Si on parle dans 4 ou 5 générations de consoles, c'est-à-dire dans 20 piges.
Mais le problème est le même.
Il faut arrêter, à mon avis. Franchement, là je crois qu'on est super pessimiste. C'est évident que dans 10 ans, le mec il va taper Limbo sur internet, il va le télécharger directement sur X ou Y console, j'en sais rien, peu importe, ou un module qui lui permettra de jouer.
Si la société
il pourra jouer à ça, c'est sûr et certain.
Qu'il a développé n'existe plus, si personne l'édite, etc. Il y a pas de raison.
Ça c'est un cas horrible, c'est qu'effectivement les ayants droit disparaissent et que personne n'ait finalement le droit de diffuser le jeu. Mais il est certain que dans 10 ans, en théorie, les machines.
On parle du côté technique de la chose.
Les machines, que ça soit des vraies consoles comme on a maintenant matérialisées, ou que ça soit un truc à la OnLive, etc. A priori auront la capacité facilement, vu leur puissance ou la disponibilité des réseaux, de faire tourner un jeu comme Limbo.
Mais il faut qu'il y ait de la rétrocompatibilité quand même, parce qu'on le voit même maintenant aujourd'hui avec des vieux jeux sous DOS, il faut télécharger des logiciels spéciaux pour faire. Parce qu'en fait les PC certes sont infiniment plus puissants aujourd'hui, mais parfois il faut downgrader son PC de manière logicielle pour pouvoir faire tourner des choses. Et si effectivement les constructeurs ne l'ont pas prévu, ou s'il n'y a personne qui a pensé à faire ce petit code, etc., peut-être qu'on ne pourra pas.
Il y a d'autres solutions. Après, il y a l'émulation aussi. T'es pas forcément la rétrocompatibilité, elle est pas forcément hardware. Du moment que la machine est suffisamment puissante pour faire tourner un émulateur.
Mais ça, c'est pas dans un cadre entre guillemets officiel.
Si, bien sûr que si. Par exemple, les Virtual Console de Wii, ce sont des émulateurs
sûr,
en fait. Lego, qui sont officiels chez Nintendo, donc c'est pas un problème. Et en plus, ce sont des consoles qui sont pas forcément Nintendo. Après, le problème de sa question par rapport à l'aspect artistique de conserver des œuvres, etc. Ça reste un problème aussi dans le matériel quelque part, parce que il y a beaucoup de jeux de vieilles consoles. Et si t'as pas la vieille console, bah tu peux pas y jouer. Donc il faut aussi conserver des vieilles consoles et des vieux formats pour pouvoir y jouer.
Et est-ce que la meilleure solution pour ce genre de choses, ce serait pas, ça fera grincer certaines dents, hein, mais la fameuse console unique, ou du coup un petit peu à la méthode d'Apple, hein, où on voit que tous les iPhones, l'application qu'on a téléchargée avec le premier, bah, finalement est mise à jour au fur et à mesure, utilisable sur les iPads, etc. Parce que finalement c'est un écosystème unique et que du coup il le maîtrise de A à Z.
Ouais, mais alors voilà, c'est ça le truc, c'est qu'effectivement Apple maîtrise de A à Z ses OS, ses machines, et a choisi une voie qui lui permet de conserver la compatibilité des choses d'une génération à l'autre. D'un autre côté, il faut quand même aussi remettre dans le temps, ça date pas d'il y a très longtemps, iOS, donc c'est facile entre guillemets de rester compatible, parce que c'est des évolutions plus que des vraies nouvelles machines complètement différentes avec des vrais nouveaux OS complètement différents.
Mais quelque part, finalement, ça ne change pas vraiment de ce qu'on connaît aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, pour rejouer un jeu NES, bah, soit vous allez sur des virtual consoles, etc. Soit vous avez la cartouche initiale et la console initiale. Pour jouer à Limbo, si vous gardez votre Xbox 360 de 2010-2011,
bah,
vous pourrez continuer à y jouer en tout cas. Mais c'est vrai qu'on espère qu'à l'avenir, il y aura des espèces de grandes bibliothèques comme ça, numériques,
sauvegarde
de jeux.
Sauvegarde du patrimoine vidéoludique.
Ce serait bien, ouais. On sait qu'en tout cas, à la Bibliothèque nationale de France, chaque exemplaire de jeu, alors physique, on ne sait pas pour les jeux dématérialisés, et c'est pas sûr, hein, c'est pas dit, mais en tout cas, pour chaque jeu physique, il y a un exemplaire qui est gardé.
Enfin, quand les éditeurs veulent bien l'envoyer.
Effectivement.
C'est
bon. Pas toujours le cas. Voilà. Allez, on passe à une nouvelle question, une question conjointe. Hein. Vous avez été nombreux, hein. J'en ai retenu deux, Midsé et Narco, qui nous ont demandé, ça a été un peu l'excitation la semaine dernière, le gros débat passionnant, hein, disent-ils, avec les parties de Cyril et AHL sur le jeu vidéo est mort. Sujet sûrement dû à un coup de sang de Cyril quand il a vu que Kinect était un succès. Il a dû avoir peur.
Les deux. Hein.
Bref, qu'en pensez-vous à la rédaction individuellement? Alors sachez d'ores et déjà que ça a suscité un véritable débat. Et puis vous l'avez vu, hein, la semaine dernière dans le Versus avec Cyril et Alain, justement. Quel versus ? Et vous n'avez pas vu le avant et le après, mais véritablement là, c'était un véritable pugilat, c'est-à-dire qu'il y aurait eu des gants de boxe, je pense qu'ils s'en seraient servis. Il y a un véritable désaccord là-dessus, en tout cas. Messieurs, vous, votre vision sur le jeu vidéo est-il
qui
mort ?
Qui veut commencer ?
Vas-y, Julien. Moi, c'est rapide, non. Je pense pas que ces nouveaux modes de contrôle vont tuer les contrôles traditionnels. D'ailleurs, il y a eu il y a pas longtemps une déclaration de c'était qui chez EA, c'était
Richie
Tiello, voilà,
oui,
le patron,
qui disait que bah il y a pas de bonne manière de faire un jeu de course par exemple sur Kinect. Pour l'instant, il n'y a pas mieux qu'une manette et qu'un volant, ça fonctionne pas bien, etc. Et puis le jour où ça fonctionnera bien, on sera peut-être content de les contrôler comme ça. J'en sais rien, mais en tout cas, on en est encore loin. Kinect, pour moi, ça fonctionne à peu près pour des jeux casual, etc. Mais il y a tout un tas d'autres types de jeux qu'on peut pas jouer avec. Et je vois pas du tout, ne serait-ce que donc la prochaine génération de consoles, ne pas livrer des manettes avec la console, quoi.
Ce qui est vrai, pour rebondir sur ce que disait Cyril, c'est que c'est quand même très impressionnant de voir qu'en l'espace de 2-3 mois, Microsoft a réussi quand même à imposer sur 10% de sa base installée Kinect. Ça, c'est en tout cas, c'est certain.
Avec quels moyens aussi, hein.
Avec quels moyens, bien sûr. Mais c'est un véritable succès. C'est-à-dire qu'on connaît beaucoup de personnes qui ont investi énormément d'argent et qui ont fait des méga flops.
Et c'est valable chez Sony aussi pour le Move, qui a réussi à un beau succès avec ça.
300 000 exemplaires du Move et de Kinect, apparemment, en France, en tout cas. Ils sont vraiment au coude à coude, tous les deux.
Après, nous et les autres gamers, on porte un regard critique sur les... sur les jeux qui sont disponibles pour ces formats-là, et puis on n'est pas satisfait. Donc pour que ce soit pour que ce soit un succès continu sur la longueur, etc., il faudrait aussi que les catalogues s'étoffent.
Je vais me faire l'avocat du diable, parce que globalement, pour pas trahir de pensée, je crois que tous ici on s'accordera à dire que le jeu vidéo n'est pas mort. Clairement pas. Et même dans sa connotation gamer, etc., quand on voit les gros succès de 2010, les méga blockbusters qui coûtent très cher, qui sont jouables vraiment à la manette, etc.,
on pense à des Call of, etc., qui sont quand même les gros succès de l'année.
Et puis on voit en 2011 certains jeux qui sont vraiment des jeux gamer et qui vont arriver. Je me fais néanmoins l'avocat du diable. Ce que Cyril souligne, c'est un glissement, et donc en se projetant dans 10, 15, 20 ans, voir qu'effectivement l'arrivée de la Wii a changé les habitudes de consommation des joueurs, que le fait que Microsoft et Sony aujourd'hui se lancent dans cette brèche-là avec succès, lui sa crainte justement, c'est de voir qu'à terme, eh bien... on sait que ce genre de jeu coûte un peu moins cher à produire une fois que c'est installé. On sait effectivement qu'ils sont
bah pour l'instant on le dit hein, sur PS Move et Kinect, nous gamers voilà, on n'a pas trouvé encore trop notre compte, même s'il y a des jeux qui sont certains plutôt sympas, Kinectimals ou Sport Champions. Mais voilà, est-ce que du coup les éditeurs, les constructeurs, au fur et à mesure, vont pas aller de plus en plus vers ce chemin-là? On rappelle, hein, pour donner des chiffres très clairs, la Super Nintendo, que nous, gamers à l'ancienne, entre guillemets, on jugeait comme un succès tonitruant, s'était vendue en tout et pour tout qu'à 45 millions d'exemplaires. C'est-à-dire qu'elle est d'ores et déjà dépassée par la PS3, d'ores et déjà dépassée par la Xbox 360. Ouais. Le marché a explosé. Il a explosé aussi par l'arrivée de ces nouveaux joueurs.
Oui.
Est-ce que ces nouveaux joueurs vont pas faire glisser les choses ?
Parce que c'est un élargissement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, en tous les cas pour l'instant, de vampirisation du jeu traditionnel tel que nous on l'apprécie par ces appareils-là.
Tout à fait. Regarde les gros succès de l'année, c'est Assassin's Creed, c'est Call of Duty, c'est pas Kinectimals.
Alors c'est pas vrai. Pas totalement vrai. En chiffres, les succès de l'année, c'est les succès de l'année, c'est des jeux Nintendo.
Ouais.
C'est Mario Kart qui est toujours
Mais là. Mario Kart, c'est un jeu
c'est
gamer.
C'est Mario Galaxy.
C'est un jeu gamer.
Je dis pas le contraire. Mais c'est pas
avec des contrôles traditionnels.
C'est pas les Assassin's Creed etc. qui sont des jeux vraiment hardcore. Enfin, vraiment hardcore. Plus hardcore et qui certes marchent très bien, font des très beaux
Call
succès.
Call of Duty, c'est quand même le plus gros
c'est
succès
plus gros.
De l'année.
C'est le plus gros.
Mais tous les jeux,
pour beaucoup de personnes, Call of Duty, c'est le casual du FPS. C'est-à-dire,
c'est vrai.
Un couloir,
c'est complètement
un blockbuster.
Vrai.
Voilà, c'est pas un jeu hardcore gamer pour beaucoup de personnes.
D'accord, peut-être pas hardcore gamer, mais c'est des jeux gamer avec un contrôle traditionnel.
C'est pas la même chose que ça pour son fils.
Exactement. Et les jeux Wii que t'as cités, c'est des jeux gamer pour moi. Parce que la Wii, c'est aussi. Pas une console de jeux casual.
Ouais,
la Wii, il y a des très bons jeux gamers et ils fonctionnent bien. Et Mario Kart, pour moi, c'est un jeu gamer. Mmh. Et Mario Galaxy, encore plus. Voilà.
Moi, je crois qu'il faut réfléchir vraiment en termes de marché et de demande. C'est-à-dire que tant qu'il y aura des joueurs qui demanderont ce type de jeu-là, extérieur au contrôle de mouvement, etc., traditionnel, il y aura des gens pour les développer et pour s'adresser à ces marchés parce qu'il y aura de l'argent à faire avec.
Et on sait très bien que ces gens-là, c'est aussi des prescripteurs en ce qui concerne justement toutes ces consoles. Si tu as des joueurs, sur des forums ou même durant le salon E3 qui protestent parce que Nintendo se dirige trop vers le casual, etc., où ils vont inventer un nouveau truc qui va leur faire croire que, ou dire que ça se dirige complètement vers le grand public, là ils vont péter un câble, c'est sûr et certain.
Mais je sais pas,
Nintendo
parce que
certainement.
Nintendo est un très bon exemple de ça, c'est ce qu'on leur a reproché pendant 2 voire 3 ans de suite par rapport à leur conférence E3 et à ce qu'ils présentaient.
Exactement.
Néanmoins, ça n'a pas changé entièrement ou en tous les cas pas tout de suite leur façon de faire.
Oui, mais ils ont quand même rectifié le tir après par Régis Fils-Aimé notamment qui disait oui, il y aura des jeux gamers.
On a une année 2010 très gamer chez Nintendo.
Ils écoutent quand même. Voilà,
très gamer.
Pas Nintendo, c'était la Wii en l'occurrence, parce que sur la DS il y a toujours eu. Discontinuer des jeux pour gamers.
Ouais, mais
en plus de l'offre.
C'est marrant de parler de la DS aussi parce qu'il y a quand même finalement assez peu de jeux DS qui ne tirent pas parti de cette nouvelle méthode de contrôle. Aussi, la majorité de la production DS, c'est assez jouable au tactile, ça ne dérange pas les gamers a priori. C'est juste parce que les expériences sont suffisamment riches
quand
et profondes pour les satisfaire.
Quand c'est fait intelligemment, il n'y a aucun problème.
Exactement. Et donc, si jamais. Moi, ce que je vois, je suis plutôt optimiste de nature là-dessus, c'est-à-dire si le Move et Kinect sont des succès commerciaux, ce qui est avéré aujourd'hui, encore faut-il déjà que ça continue. Hein. Ce qui n'est pas garanti, il y a de fortes chances pour que ça continue, mais bon, voilà. Pour moi, c'est plutôt la porte ouverte à justement des expériences plus intéressantes, plus riches, qui seront nécessaires, parce que si tout le monde fait toujours la même chose et toujours du casual, les gens s'en lasseront. Il faudra forcément.
Il y a eu un petit déclin justement en 2010 de l'attraction des jeux casual.
Bien sûr. Et ces gens-là, soit ils arrêtent de jouer et donc ils renouvellent pas leur console, ils renouvellent pas leur jeu, ils arrêtent d'acheter des produits, donc ce ne sont plus des clients.
Ça va être intéressant, la nouvelle Wii, la nouvelle DS, etc., de voir si les gens vont majoritairement basculer, se rééquiper, ou finalement, la Wii, ça me suffit.
Et puis rien ne dit qu'il n'y aura pas, je sais pas, une idée géniale d'un truc encore différent qui va prendre le pas sur le reste.
La prochaine machine console de salon, ils préparaient un truc encore inédit. Mais
apparemment, ce serait surprenant.
C'est ce qu'ils disaient. Mais encore une fois, c'est aussi beaucoup de marketing.
Bien sûr.
Kinect avec Xbox, ils savent très bien que ils vont élargir le public, etc. Le PSU, c'est pareil. C'est vraiment aussi pour quelque part relancer les ventes, faire perdurer leur console de salon.
Puis il y a le PC aussi, dont on parle pas forcément beaucoup.
Oui.
Mais pour le moment, à part, il y a eu un Kinect Lite qui vient de sortir, dont j'ai oublié le nom.
De Asus.
PC. Voilà, chez Asus.
Exition.
Un truc comme ça. Mais le PC est aussi une plateforme de jeu qui a perduré au travers des âges avec une offre qui reste typiquement PC. Aujourd'hui, quand tu vois un Cataclysme, c'est un MMO, donc c'est un peu particulier, qui fait 4,7 millions de ventes. StarCraft 2, c'est encore Blizzard, a cartonné aussi. Et ce sont des jeux, StarCraft 2, c'est le c'est du hardcore de chez hardcore.
Et je crois justement que le PC, c'est peut-être la plateforme sur laquelle le hardcore et le casual cohabitent le mieux, parce que le Uno, le poker, le machin, enfin les expériences de jeu qui sont pas trucs super hardcore, bah, elles existent et ça cartonne grave avec les.
Au pire, je pense qu'il est fort possible, et c'est là où Cyril doit avoir raison, qu'il y ait un phénomène de balancier où s'inverse le jeu traditionnel par rapport au jeu à détection de mouvement, et qu'il y ait au final plus de joueurs qui préfèrent jouer à des choses légères comme ça, casual, que de gens comme nous. Mais un, ça disparaîtra pas, et deux, si c'est un élargissement global, ça fera toujours du blé, quoi.
Mais franchement, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et vous, chacun individuellement, nous aussi, on a tous une responsabilité et on a tous un pouvoir, c'est celui d'acheter ou pas des jeux gamers. Si plus aucun gamer n'achète de jeux gamers, il n'y aura plus de jeux gamers, parce que les éditeurs ne s'y retrouveront plus. Si les gamers continuent à acheter des jeux gamers majoritairement, à soutenir les productions qui les intéressent, bah ça continuera. C'est toujours pareil, hein, c'est individuellement, on ne vaut pas grand-chose, mais chacun, c'est comme pour un vote, hein. Chacun tous ensemble, on peut déplacer des montagnes et donc faire perdurer les jeux gamers, et donc le jeu vidéo ne sera pas mort si nous on continue à acheter des jeux. D'ailleurs, ce sera une question un petit peu plus tard, on en reparlera. Allez, on passe à un nouveau thème. Cette fois-ci, c'est Sega Dream, Sega Dreamcast même, exact, carrément, qui pose une double question. Alors, la première, c'est petite question sur Halo. Bungie ne s'occupe plus de la licence, mais qui va donc bien pouvoir s'en occuper selon vous? Alors, c'est très rapide à répondre. Oui. Hein.
343 Industries. Et voilà. A priori, il y a des rumeurs qui circulent et des images qu'on n'a pas pu vérifier qui seraient d'un nouveau Halo à la troisième personne, plus donc Gears of War que FPS. Donc plus TPS que FPS, qui serait en développement chez 343 Industries.
Il y aurait deux choses. Il y aurait un remake, a priori, du premier.
Ouais. Oui, du premier Halo. Ouais.
Et qui arriverait peut-être même cette année, qui serait peut-être annoncé Halo 3. Et derrière, en fait, faire en sorte que Halo arrive tous les ans. Comme une grosse licence, voilà.
Comme genre Call of Duty, par exemple.
Oui, c'est ce qu'on veut dire. Et puis alors, il a une deuxième question. Cette fois-ci, ça s'adresse à toi, Julo. Et voici le moment connerie. Julo, quand vas-tu donc aller chez Sega tout nu? Je crois que tu en avais parlé, effectivement.
Ça me rappelle quelque chose aussi, vaguement.
Mais il n'avait pas dit ça, c'est justement Shenmue 3 qui a annoncé.
À tout à l'heure, Julo.
C'était ça, non?
Eh bien, voilà. Julo part
chez Sega, tout nu.
Chez Sega.
Et surtout, sera filmé.
Total. Merci, Sega Dreamcast. Et Julo est effectivement véritablement parti pour ceux qui ont la vidéo. On ne sait pas où il est parti.
C'est les toilettes des amis, là.
Ok, il va peut-être arriver nu. C'était un grand moment dans les podcasts, mon Dieu. Nouvelle question. Dante Mort. Pensez-vous que nous aurons droit à un renouveau du jeu vidéo cette année, hors gameplay Kinect PS Move, dans le style Heavy Rain? Si oui, avez-vous déjà une petite idée de ce qui pourrait être fait? Alors, on en avait parlé. Moi, ouais, personnellement, je le souhaitais.
Je l'appelle de mes voeux.
Je l'appelle de mes voeux, effectivement, de revivre d'autres expériences à la Heavy Rain.
Ouais, Heavy Rain-esque.
Un peu sur le narratif, sur l'émotion, etc.
Et il y a plein de choses dans Heavy Rain, en fait. C'est ce qu'une expérience à la Heavy Rain, c'est un, l'univers contemporain et réaliste. Deux,
alors ça, je suis pas d'accord. Non,
mais ça peut être oui, constitutif de l'expérience en question. Ouais. Il y a ça, il y a le gameplay lui-même, c'est-à-dire un truc adapté à chaque situation sous forme de plus ou moins QTE. Bon, voilà. Et puis, il y a la non-linéarité de l'histoire. Je pense qu'en termes d'histoire non linéaire, il y aura des tonnes d'autres jeux qui le font, qui l'ont fait avant et qui le feront après. Je pense à des Deus Ex, je pense à des The Witcher 2, etc., qui sont plus sur le côté RPG, mettent ça en valeur.
Ça, c'est pas l'expérience Heavy Rain.
C'est plutôt l'émotion et tout ça, ouais, comme Last Guardian.
Avec des choix. C'est pas un de ces éléments pris séparément.
C'est pour ça que je dis c'est les trois
mais
en même
Deus
temps.
Deus Ex, c'est pas Heavy Rain.
Non, bien sûr, mais je veux dire, il y a un certain nombre de cette expérience Heavy Rain.
Ah, je le reviens, il n'est pas nu.
Il n'est pas nu, ce gros porc.
Il était donc allé
J'étais
aux toilettes.
Ça n'a pas marché, désolé.
Oh, quelle déception.
Ils m'ont demandé de patienter.
Pas de Shenmue 3 cette année, donc alors.
Non.
Merde.
Quand t'as Heavy Rain.
Donc on se reconnecte.
Donc c'est ces trois éléments-là qui constituent, je pense, l'expérience Heavy Rain. Ces trois éléments séparés, on les retrouve dans d'autres productions. Donc en fonction des préférences de chacun, il y a des choses alternatives. Un Heavy Rain Light vraiment. Eh ben, tel quel.
C'est tombé la semaine dernière, hein.
Jurassic Park. Non.
Ah oui.
Ils ont dit qu'a priori ils s'inspiraient du gameplay d'Heavy Rain, mais on sait pas exactement.
Jurassic Park, moi j'ai un doute, excusez-moi, mais bon là.
On sait pas.
Non, moi je pense.
C'est Telltale Games qui développe, donc c'est les habitués du point and click qu'on fait notamment les saisons de Sam & Max.
Si c'est pour dire qu'il va y avoir des QTE.
Ouais,
on n'a pas le droit de dire qu'on s'inspire des virus.
Voilà,
on doit dire qu'on s'inspire de Shenmue.
Oui.
Voilà.
Mais il ne faut pas non plus oublier que dans le top 2010, de nombreux développeurs japonais, Heavy Rain a souvent été nommé très
haut. Et pas que chez les Japonais, d'ailleurs.
Ouais, c'est vrai,
donc
ça.
En gros, visiblement, c'est quand même un jeu qui a plu à nombre de gamers. Il s'est vendu à 1,7 million d'exemplaires. Et aussi, a peut-être inspiré certains développeurs. Alors, vous le savez, un jeu comme ça prend des années à faire. Donc, peut-être que cette fin d'année de cette année, l'année prochaine, etc., on aura des jeux qui se rapprocheront un peu de l'expérience d'Heavy Rain. Moi, je serais étonné quand même qu'un cinéaste, alors on avait parlé de Mathieu Kassovitz à l'époque, hein, mais n'utilise pas, entre guillemets, hein, le moteur Heavy Rain, c'est-à-dire bah, les interactions...
Pour créer sa propre histoire.
Pour créer sa propre histoire. Et moi, je serais vraiment intéressé de vivre ça, de voir des gens hors jeu vidéo, justement, qui auraient la possibilité juste d'écrire des histoires et qu'après soient mis en image dans le jeu vidéo.
Mais ce qui est...
Moi, ça me ferait vraiment... Qui fait de jouer
ce
à
qui
ça,
est intéressant, hein. Je pense, avec Heavy Rain en particulier, c'est la valeur des choix qu'on te demande de faire. Il n'y a pas forcément de bons ou de mauvais choix. Mm-hmm. C'est des choses qu'on a un peu eues avant, mais sur lesquelles Heavy Rain met un accent tout particulier. Et il est évident que des gens comme Peter Jackson, comme même Spielberg, même si pour le moment il a pris la distance avec l'industrie, et d'autres grands réalisateurs.
Oh bah, il est quand même un peu derrière Tintin. Hein.
Oui, oui.
Avec certaines personnes.
C'est dommage d'ailleurs
Ubisoft.
Que son LMNO ait été annulé. Je pense que ça pouvait être.
Ouais, ça avait l'air bien, ce truc.
Ça avait l'air bien.
Des petites démos, mais...
Et je pense que ces gens-là s'intéressent en particulier aux jeux vidéo aussi parce que ça leur permet de raconter les histoires différemment et de raconter donc des embranchements de choses, de les confronter leurs spectateurs à
Tarantino avec le moteur d'Heavy Rain, ils pourraient faire des trucs chambés, vraiment qui seraient nouveaux dans le jeu vidéo, quoi. Ouais.
Mais enfin, de toute façon, ça a marché, Heavy Rain, ça a eu du retentissement, donc il y a forcément des gens qui vont y accorder une attention toute particulière.
Allez, nouvelle question, celle de Ramzi Alager. Pensez-vous que pour l'avenir du jeu vidéo, les développeurs devraient se baser sur Ni no Kuni pour développer les jeux futurs? Je m'explique. Dans Ni no Kuni, il y a un gros carnet qui l'accompagne et à certains moments dans le jeu, on est amené à consulter ce carnet pour avancer dans l'aventure. Donc, est-ce que les développeurs devraient effectuer un système dans ce style pour contrer le piratage du jeu vidéo?
C'est mieux comme le monde, ouais, ça, les astuces dans les jaquettes, ouais. Enfin, pas dans les jaquettes, dans les livrets.
Monkey Island, par exemple, faisait ça.
Metal Gear, il te demande de chercher le code sur la boîte du jeu.
Sauf que si tu l'as pas, au bout d'un moment, il finit par te le donner. Alors que Monkey Island, tu pouvais vraiment pas y jouer, c'était au début du jeu.
C'est surtout que maintenant, aujourd'hui, avec Internet, si tu l'as pas, bah, tu te bandes sur un forum et puis tu as la réponse.
C'est sûr.
Est-ce qu'il y a vraiment de solution?
Oui, mais enfin, avec Ni no Kuni, c'est quand même très complexe parce qu'il faudrait que tu ailles demander de l'aide sur Internet très souvent, quand même.
À mon avis, ça m'étonnerait pas qu'il soit pas déjà scanné.
Oui,
ce qui est triste,
c'est évident.
On ne prône pas du tout, vous le savez.
Mais c'est une façon d'emmerder un peu quand même le piratin qui va essayer de...
Mais même,
voilà,
même
au moment de la sortie, etc.
Même au-delà de l'emmerdement pour les pirates, c'est quand même vachement plus sympa d'avoir le grimoire sur tes genoux quand tu joues au truc, de chercher dedans, etc. Ça force l'immersion, c'est aussi une qualité pour le jeu. Et, et par rapport à des pages scannées sur Internet, c'est pas la même expérience.
Non, quoi. C'est sûr. Mmh. Bah, c'est une bonne idée. Parmi les idées possibles. Après, ça coûte un peu plus d'argent, forcément, hein, pour un éditeur de faire ça. Après, reste à savoir s'il
doit y avoir un grimoire avec chaque jeu après,
sur le jeu.
L'idéal, ce serait d'avoir des codes uniques par jeu. Hein. Voilà. Parce que le mec, il aura beau scanner ses pages à lui et mettre sur Internet.
Mais c'est le principe
si
des clés.
Ça ne correspond pas à ta version. Oui, c'est ça, c'est exactement pareil.
Mais après, ça se craque.
Ouais, les clés, ça se craque aussi.
C'est dur, hein, la question du piratage. Bah,
je pense que le piratage ne disparaîtra jamais. Quoi. Ils n'y arriveront pas. C'est une course, en fait. Ils font un petit effort, les pirates courent derrière.
Même la
PS3
a été hackée. Le seul moyen de contrer le piratage, c'est de dématérialiser les jeux.
Ou d'éduquer.
Ouais, mais ça plus long et après, il y aura toujours des gens.
C'est vrai que la dématérialisation, c'est probablement la meilleure façon de lutter contre le piratage.
Et c'est ce que craint Cyril, d'ailleurs, ça revient un petit peu sur les thèmes d'avant, c'est qu'une fois qu'ils auront complètement maîtrisé le truc, certes, ils vont complètement éliminer le piratage, mais du coup, ils pourront faire ce qu'ils veulent en termes de prix et de ce qu'ils donnent aussi. C'est la crainte, en tous les cas, de Cyril. C'est pas trop, je la partage pas à 100%, mais...
Voilà. À suivre, mes amis. Est-ce que ce sera une des voies de contrer le piratage? On le verra bien. Allez, question de tumeur. Le MMO sur console est-il toujours d'actualité? Je me rappelle d'une publicité en 2005 qui vantait la Xbox 360 comme la plateforme d'un nouvel Eldorado pour le massivement multijoueur et qui a pesé dans mon achat de la console le Day One. Des années après, j'attends toujours Huxley, The Agency ou encore The Secret World. Qu'en est-il, s'il vous plaît, Gameblog?
Alors déjà pour The Agency et The Secret World, c'est toujours en développement.
C'est toujours actualité ça.
Mais The Agency, c'est exclu PS3 par contre.
Oui, en console oui, mais ça sort sur PC aussi.
Ah bah revente Xbox.
Donc faut voir, il y a déjà du MMO sur console, hein. Il y a FF11 sur 360.
Ouais,
c'est vrai. MMO.
C'est un vrai MMO.
Il va avoir FF14 qui n'a pas l'air.
Ou pas.
Mais en mars, il sera probablement terminé quoi.
Ça refait de A à Z. Ou pas.
En tout cas, ils ont une approche saine. Hein, il est plus payant. Hein. Maintenant, c'est gratuit.
Jusqu'à ce qu'ils aient réglé les problèmes.
Voilà. Bah ouais, mais c'est une bonne attitude.
C'est une belle attitude.
Bien
ouais.
Sûr, bien sûr. Donc,
tu étais positif.
Moi, par contre, c'est marrant, mais j'ai presque envie. Moi, c'est un mystère pour
moi.
World of Warcraft, je ne comprends pas.
Mais non plus.
Pourquoi?
Pourquoi il est pas sur
console? Bon, parce qu'il gagne assez de pognon, tu vas me dire.
Bah, il pourrait en gagner
deux fois plus. Mais, enfin, pas deux fois, mais
le problème, c'est que, à mon avis, Blizzard ils veulent que ça soit une expérience console. C'est-à-dire qu'ils veulent pas obliger les gens à brancher des claviers et des souris sur des consoles.
Il y a des casques micro.
Ouais.
Mais alors ça par contre, on en avait déjà parlé d'ailleurs.
Oui,
c'est une problématique parce que quand t'es dans une grande ville et que t'as 40, 50, 60, 120 mecs autour de toi, comment est-ce que tu gères vraiment ce que t'entends, ce que t'entends pas?
Bah, tu limites le truc à un groupe que t'as créé.
Ouais, mais alors comment est-ce que tu fais pour communiquer avec quelqu'un qui veut être dans ton groupe ou pour
avec un système d'icônes, de phrases préétablies.
Il appuie sur ta gueule, il y a un pop-up qui arrive, genre bidule, va entrer en connexion avec vous.
C'est possible, mais c'est pas très confortable.
Mais d'accord, mais ok, c'est pas très confortable. Mais pourquoi ils le font pas? C'est quand même pas un frein, ça.
C'est pas vraiment à moi qu'il faut le demander. Ça sera
peut-être une question politique.
Moi, vraiment,
aussi,
je comprends pas.
Peut-être que chez Blizzard, ils veulent contrôler tout sur PC, ils y arriveront beaucoup plus facilement.
Oui, ça joue énormément.
Sur Microsoft, par Microsoft sur Xbox, je sais pas.
Ou Sony,
ils
parce que c'est leur plateforme.
Voilà, ils ont peut-être peur qu'ils s'y misent. Et... Comme c'est un business colossal.
Parce que FF11, ça marche bien. Ça marche très bien.
Ça a été pensé.
Mais t'as un clavier avec FF11. Hein. Tu branches un clavier USB.
Moi, je jouais sans clavier.
Parce que tu parlais pas aux gens.
Quand t'es en groupe, je me souviens plus, c'était au tout début de la sortie sur 360 et j'y ai joué que 3-4 mois. Le truc à l'échelle d'un MMO, quoi, c'est pas beaucoup.
Sans dormir.
Je me rappelle plus comment je communiquais. Je crois que c'était par la voix et par le truc, et puis par les trucs prévus dans le jeu avec les phrases établies.
Les phrases déjà faites.
Ce qui est certain, c'est que le MMO étant ce qu'il est économiquement par rapport à ce que c'est potentiellement capable de rapporter, les gens vont continuer à réfléchir sur le moyen d'adapter cette expérience à la console. Donc un jour ou l'autre, il y a bien quelqu'un qui va trouver un truc génial.
Même sur la première Xbox, vous vous souvenez, il y avait ce fameux True Fantasy Live Online qui n'est jamais sorti parce que Level 5 foutu de la gueule de Microsoft, qui n'avait pas très bien pris, mais au bout de 3 ans...
pour faire Dragon Quest
8. Ouais, tout à fait. Et
c'est son filou, quand même.
Merci. Mais moi je comprends pas. Je ne peux pas répondre à ta question.
Et le pire dans cette histoire, c'est rappelez-vous, on avait fait un podcast sur le MMO et on avait, je crois, déjà évoqué cette idée et c'était il y a 2 ans. Et on est toujours à peu près au même point. Et c'est vrai qu'avec Julo, on se pose souvent cette question, on comprend pas. Bon,
je n'ai pas de clé.
On n'a pas de clé pour l'instant. Allez, nouvelle question, celle de Akisuki.
Quelle classe.
Avec les rumeurs concernant la PSP 2, et au vu des photos apparues sur le net, on peut clairement dire que c'est une PSP Go 2. En tout cas, pour ce qui est de question de l'absence d'UMD, principal défaut selon moi. Mais avec l'échec commercial plus que flagrant de la PSP Go, croyez-vous que celle-ci va aussi sombrer?
Je pense qu'ils vont mettre un tout petit peu plus d'efforts qu'avec la PSP Go parce que mine de rien ils n'ont pas lutté longtemps quand même. T'as l'impression.
Non, j'ai l'impression qu'ils confondent la PSP 2.
C'est le plan Z. Voilà, c'est une fois que rien n'a marché, t'essayes de livrer des jeux avec à outrance, etc. Bon, c'est un bon plan la PSP Go, franchement.
Non, mais il y a un truc fondamental, c'est que si effectivement la PSP 2 s'avère être complètement dématérialisé comme la PSP Go, il n'y a pas d'alternative, ce qui n'était pas le cas de la PSP.
Mais je pense que c'est pas ça qui fera de la PSP Go, enfin de la PSP 2, un succès ou pas. Ce qui fera de la PSP 2 un succès ou pas, c'est est-ce qu'il y a vraiment un marché pour une console portable super gamer, etc. Quoi. Face à la DS, face à la 3DS. Oui. Voilà.
C'est marrant de dire qu'elle sera plus gamer, tu penses, qu'une 3DS, par exemple, dont le line-up est quand même sacrément costaud au niveau des jeux.
C'est plus exclusivement gamer, c'est plus techno.
Ouais.
C'est plus les consoles comme on les concevait dans nos tronches il y a longtemps. Quoi.
Geek freak, quoi. Super high-tech.
Mais moi, j'adore cette console, j'adore la PSP, vraiment.
Ouais. Tu parles, je suis le seul à jouer ici, nous quatre. Trasom. Bande d'escrocs.
Bah, tu rigoles, moi.
Bande d'escrocs.
J'adore ma PSP 3000, ouais. Vraiment, j'adore. Je joue beaucoup,
je vais jouer Tactics Ogre.
Ah, moi, ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai eu Metal Gear Solid Peace Walker et que j'ai ouvert ma PSP Go pour mettre Peace Walker et que j'ai sorti à l'UMD. J'ai fait, c'est quoi? Oh, Ridge Racer! Voilà, je suis désolé, j'ai pas beaucoup joué à cette console.
Étoile d'araignée.
Mais il y a des très bons
jeux. Il y a des très bons jeux, oui.
Bien sûr.
Le vrai problème en fait de la PSP Go, c'est surtout le retail. C'est ça qui l'a vachement freiné, c'est que les gens voulaient pas la vendre. Quoi.
C'était trop tôt.
Et voilà. Mais au fur et à mesure, d'expérience en expérience, Sony apprend aussi et le marché continue à maturer. Donc je crois pas que. Enfin, si la console est bien conçue et que son line-up est fort.
Justement. Oui, mais attention.
Et puis ils peuvent vendre des jeux sur memory stick.
Oui.
Ça, on le sait pas encore. Mais ça se trouve leur truc, c'est ça, c'est de vendre sur memory stick.
Ouais, il faut qu'ils proposent des éditeurs effectivement. Quelque chose qui soit super pratique et super simple pour eux, quoi. Et il faut pas que techniquement simplement elle soit extraordinairement surpuissante. Il faut que les développeurs puissent justement développer vachement plus facilement et qu'il y a un vrai retour sur investissement, quoi. C'est ça aussi qui freine les trucs sur la console.
Et moi, ce qui me fait peur pour l'instant, alors on ne sait pas grand chose sur la PSP 2, on sait juste qu'elle est très puissante, c'est zone tactile à la fin, machin, etc. Mais on ne sait pas s'il y aura de la 3G ou quoi que ce soit.
Oui, tout à fait.
Quand tu fais du tout dématérialisé, pour moi,
c'est quand même mieux d'avoir une
antenne
3G.
Franchement,
c'est,
mais pour
évident,
moi, il faut de la 3G.
Bah,
parce que si il faut se dire, ah, j'ai envie de jouer. Ah, j'ai pas de spot wifi, ou ah, j'ai un spot wifi, j'ai pas le code. Yeah. Ah, il faut que je me connecte à mon PC. Ah, il faut que je mette un câble. Mais laisse tomber.
Ah ouais,
les gens, ils vont pas le faire.
Là, aujourd'hui, c'est
si
fini,
t'es dans la rue, t'es dans le métro et tu fais soudainement, tiens, ah, j'ai envie de jouer comme on le fait avec l'iPhone, Android et compagnie.
Bah, dans le métro, il y a pas trop de projets. Mais...
Ah,
je suis tout le temps en Edge.
Mais
moi.
Oui, bon. Ouais, mais tu peux surfer. Mais
après, il y a le problème du téléchargement par les réseaux 3G, c'est qu'a priori, un jeu PSP 2 sera beaucoup plus lourd qu'un jeu iPhone. Voilà.
Déjà, on le voit avec Infinity Blade, hein, le premier jeu d'Epic qui cartonne grave sur iPhone, iPad. C'est pas le même poids qu'Angry Bird.
Et d'ailleurs,
pas la même durée de téléchargement.
D'ailleurs, Apple te dit quand c'est trop lourd, tu peux pas le télécharger en 3G, il faut que tu passes en Wi-Fi. Donc, bon.
Mais c'est pour ça, que, d'autant que la concurrence hein, en face, il y aura 3DS quand même, qui elle aura des cartouches, plus d'autres choses en téléchargement et compagnie. Je me demande hein, si moi ils vont pas, parce qu'ils ont jamais dit, hein, a priori effectivement on se dirige, mais c'est pas une certitude encore hein, sur la suppression de l'UMD, ça se dirige, hein. Mais peut-être memory stick.
Ouais.
Ou une mini carte ou...
Oui, non, mais, ou un en fait, système,
quoi, une alternative quoi.
Pour pas squeezer complètement les retailers, peut-être de la distribution dans les Virgin et boutiques de jeux vidéo, etc., pour charger ton UMD, le payer, etc., ou l'achat d'un code dans une boîte qui te permet ensuite de télécharger, etc.
Parce que effectivement, sinon les autres ils auront le choix entre Nintendo qui fera hey, distrib, toi tu peux machin, et Sony qui leur fait hey, distrib, bah va te faire foutre. Bah...
Tiens, j'ai une idée à la con.
Ah, alors attention, non, instant idée à la con.
Non, mais
ça arrive à des gens très bien.
Si par exemple, les jeux deviennent majoritairement dématérialisés pour séduire le retail et en même temps permettre aux éditeurs et constructeurs d'offrir des trucs intéressants, peut-être que les versions matérialisées pourraient être juste des compiles comme il y en avait en fait à l'époque de l'Atari ST et de l'Amiga. Par exemple, un catalogue Ubi, tu vois, parce que Steam fait ça aussi, ça cartonne. Bon, mais la Steam c'est du dématérialisé, ils font des promos éditeurs entiers, mais imagine par exemple il y a un Blu-ray plus machin truc sur une telle prochaine console, etc., qui a une grosse capacité. Tu consommes tes jeux d'habitude dématérialisés à la pièce, et si tu as la possibilité d'acheter peut-être plein de jeux condensés en un seul truc pour continuer à utiliser du matérialisé,
mais plus
à
cher.
Bonne raison. Bah pas forcément, au contraire, a priori ça serait moins cher puisque t'achètes 5, 6, 10 jeux, je sais pas.
Mais rappelez-vous le premier exemple qu'on avait eu de code dans les boutiques, c'était la première extension de GTA 4. Lost and Damned, tu pouvais l'acheter en boutique, c'était une boîte.
Ah oui, oui,
et
y avait
en
un
fait
code dedans,
t'avais un code. Et du coup, le retailer se faisait son blé aussi, il était content. Et voilà quoi, il y a quand même des moyens d'opérer, je pense.
Ouais.
À suivre, on en saura plus forcément aux alentours de l'E3 en juin prochain, où elle devrait
ça va être
normalement
chaud.
Être
ça va être chaud.
Dévoilée en grande pompe. Allez, nouvelle question, Pawat. Pensez-vous que les tablettes numériques iPhone, iPad et autres vont pouvoir s'imposer sur le marché du jeu vidéo? Et on va coupler cette question à la question de Akinari, qui est un super blog, qui nous demande, ma question, pensez-vous que le Mac, App Store va démocratiser le jeu sur Mac, qui reste encore assez pauvre malgré l'arrivée de Steam courant 2010?
Les
tablettes, etc.
Moi, personnellement, je trouve qu'elles sont déjà imposées, en fait, quelque part. Il y en a beaucoup. Il y a des jeux dessus. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui jouent dessus. Donc, c'est pas négligeable. Après, c'est peut-être pas.
C'est pas mainstream encore, quand même.
Je sais pas. Parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de machines.
Bah, le Samsung, la tablette de Samsung, ils en ont vendu 2 millions. L'iPad, a priori, on est, si je dis pas de bêtises, vers les 7 millions.
Des iPhones, il y en a combien? 14 millions?
Mais c'est pas une tablette.
Des iPhones? Ah non, il y en a 140 millions.
Ouais,
c'est un truc comme.
Donc,
non,
là,
non.
Plus
non,
de
c'est
100.
C'est 45 millions, je crois. Des iPhones.
Bon, moi je vais dire 62. Voilà.
Ok. J'avoue que là j'ai un gros doute sur ce que j'ai dit.
J'ai entendu 45 millions,
moi,
il n'y a pas très longtemps.
En tout cas, c'est plusieurs dizaines de millions. Ça, c'est une certitude.
Il y a plein de constructeurs qui ont montré des tablettes justement durant le dernier CES.
C'était la tendance.
Je crois qu'il y a LG notamment.
Comme de par hasard.
Mais après, c'est pas une plateforme de jeu uniquement.
Plein, plein.
Donc il y a des gens qui l'achètent, qui jouent pas, etc. C'est comme un PC, c'est pas forcément une plateforme de jeu. Il y a des PC partout.
À l'image de iOS, puisqu'on en parlait, à l'image de l'app du Mac App Store qui vient d'être lancé. Sur les plateformes Apple,
il y a deux semaines,
60% en gros des applications sont des jeux. Donc en tout cas, c'est sûr qu'il y a une demande, une volonté. C'est un espace vraiment. Les jeux cartonnent sur ces plateformes.
Ouais. Bah après, il faut s'entendre sur ce que ça veut dire en fait s'imposer, quoi. C'est-à-dire, peut-être qu'il envisage un remplacement, en fait. C'est peut-être plus ça que la question. C'est-à-dire, est-ce que ça va remplacer les consoles nomades habituelles?
Moi, j'ai envie de vous dire que la réponse à cette question
arrivera bientôt dans un podcast.
Très bientôt dans un podcast, quand on est en train de vous préparer.
Poursuivons ce débat.
Est-ce qu'on peut donner le nom de ce podcast, juste bien pour un petit teasing? C'est « Les consoles portables vont-elles mourir ?» parce que vraiment, je crois qu'en 2011, c'est une question qu'on peut véritablement se poser. Il y a l'arrivée de la 3DS, il y a l'arrivée de la PSP2, c'est sûr. Mais il y a aussi l'explosion justement des tablettes, des iPhones, des Android et compagnie.
Est-ce qu'ils vont être phagocytés ?
Et ça, c'est une vraie question que du coup, on aura largement le temps de développer dans un podcast dédié d'ici, allez, quelques semaines à peine.
Exact. Et puis pour le jeu sur Mac, ça s'intensifie effectivement. Depuis que Steam a débarqué, c'est quand même vachement plus intéressant. Il y a beaucoup de jeux indés qui sortent sur PC et sur Mac, très gros jeux indés comme des plus petits. Donc moi je pense que le Mac, d'autant plus que maintenant Apple est quand même très conscient qu'il y a une demande sur ses plateformes de jeux, va effectivement avoir une ludothèque qui va s'enrichir dans les années à venir.
L'App Store, je crois que ça va faire exploser les logiciels et les jeux.
Sachant que n'importe qui peut développer, n'importe qui, s'il a envie de faire un jeu, il fait un jeu sur Mac App Store maintenant.
Exactement. Donc, oui. Allez, nouvelle question, celle de Gordon le Muet. Pensez-vous que la vague récente des remakes sur la Wii, GoldenEye, Donkey Kong Country Returns, Kirby, alors c'est pas vraiment des remakes, hein, mais bon, pourra redorer le blason de Nintendo et de sa console casual auprès des joueurs?
En tous les cas, ça a été le cas pour Donkey Kong, par exemple. On a eu beaucoup de gens qui ont trouvé que c'était probablement le jeu de l'année 2010, enfin pour eux en tous les cas.
Super Mario Galaxy 2 quand même.
Non, mais, c'est pas ce que je dis moi.
Ouais, il y a des gens qui disent, j'ai entendu.
non, c'est pas vrai. Par exemple, Cyril, c'est son jeu de l'année. Aussi, Donkey Kong.
Cyril ?
Ouais, c'est son jeu de l'année.
Alors, je ne comprends plus rien, monsieur.
Non,
monsieur.
Mais tu sais.
Vu à quel point il a défoncé Donkey Kong dans les versus que nous avons enregistrés pas plus tard qu'hier.
Parce qu'il déteste en fait le fait qu'ils doivent justement jouer au mouvement.
Mais il déteste les jeux d'année.
En fait, pour lui, c'était sa meilleure expérience.
Pour lui, avant de
lâcher l'affaire à cause de ça.
Pour la première fois.
Avant de tomber sur la tête.
Ce que tu fais à peu près aux 10 premiers mètres. Voilà.
Mais il y a des. En tous les cas, il y a beaucoup de gens hors Cyril qui ça n'a pas saoulé de faire ça.
Alain a beaucoup aimé à HL.
Et qui n'ont pas taré des langes sur Donkey Kong, donc j'imagine que c'est
Super Mario Galaxy 2, un vrai jeu gamer sur la Wii aussi. GoldenEye est pas si mal que ça.
Mais moi je suis pas d'accord avec l'appellation la console casual.
Ouais, moi non plus.
C'est pas vrai.
Ouais. Bah oui, c'est pas vrai.
C'est elle cristallise vraiment, elle représente c'est vraiment...
le David Cage de la console en fait.
Mais non, mais non,
toute
mais
la haine
dire...
des gamers est concentrée sur elle.
Oui, c'est un peu ça n'empêche, mais enfin moins fort quand même. Oui, cela dit,
bon, quoi que, hein.
Mais c'est une console sur laquelle il y a énormément de jeux purement gamer.
Ramassa,
mais No More Heroes,
Mad World,
mais non, mais tous les jeux Nintendo même.
Okami,
les jeux Nintendo, c'était des jeux gamer avant, c'en est plus parce que c'est sur Wii. Donkey Kong, effectivement, il y en a d'autres, il y a les Super Mario.
C'est une belle phrase, ça. J'aime bien.
Merci.
Non, mais je trouve que ça résume assez bien
la
les choses.
Tu la noteras.
Oui. On va la tweeter.
Donc pour moi, c'est pas la console du casual. C'est la console qui a fait venir le casual dans le jeu vidéo, probablement, mais c'est pas une console casual.
Par contre, c'est la console du remake.
Bah, il y a...
C'est surtout la console de...
Du
SD. Et ça fait chier, quoi. En 2011, de la SD. Et c'est pas beau. Et ça bave, etc.
Ouais, ça va changer, ça.
Non, mais c'est sûr. Mais le nombre de jeux qu'on voit là, franchement, est en HD. Alors, je sais, c'est un truc de technicien. Bien sûr que les jeux se jugent à l'aune de leur gameplay et machin. Je suis super d'accord. Il n'y a aucun problème là-dessus. Par exemple, et on en reparlera dans quelques instants, la story, j'aurais kiffé grave le voir sur Xbox ou PS3. Ouais. Voilà, même s'il va probablement super. Mais bon, un truc en HD.
Il aurait coûté plus cher à développer aussi.
Bah oui. Donc on est d'accord là-dessus, effectivement une fin d'année 2010 pour Nintendo très gamer dans l'absolu, et une console Wii que nous on n'appelle pas casual, qui a effectivement, comme le disait Julo, fait venir des casuals. Enfin, voilà, j'espère Gordon,
faut pas tout mélanger,
on a répondu à ta question. Allez, nouvelle question d'un américain
à Paris ou pas,
non mais d'un lecteur qui habite aux États-Unis, s'appelle Rude Boy. Voici sa question.
Sa question est en turc.
Je m'intéresse beaucoup à la programmation. C++, Java, JavaScript, PHP, même QBasic. Lol. c'est ce qui a marqué, joli. Ma question, je trouve que c'est injuste que les producteurs, artistes, scénaristes soient toujours mis en avant, alors que ce sont les programmeurs qui sont vraiment à la base des choses. Sans eux, il n'y aurait pas grand chose. Serait-il possible d'entendre plus de programmeurs parler de leur métier?
Mr. P, je suis Désolé de devoir dire ça à Rude Boy, mais ils sont pas à la base des choses.
À la base, c'est pas eux qui lancent les projets, tout ça.
Bah oui,
pas forcément.
C'est l'architecte et le.
C'est l'auteur. C'est voilà. C'est les game designers.
Directeur du projet aussi.
C'est vrai que l'architecte met pas les briques les unes sur les autres pour faire la maison, mais quand même, c'est lui qui est à la base du truc.
En revanche,
il y a quelques programmeurs qui sortent du lot comme Carmack, etc. Mais bon, ils sont pas 40 000 quoi.
Ils sont très.
Oui, mais c'était à une époque où quand t'étais programmeur, t'étais aussi designer du jeu et tout ça.
Mais c'est aussi ceux qui font véritablement avancer le chemin.
Voilà, exactement.
Absolument pas en cause que les autres sont.
Mais non,
très important,
mais c'est des vrais génies par contre.
Mais effectivement, là où il a raison, c'est qu'on en parle trop, beaucoup trop peu. Le problème, c'est qu'en fait, la plupart du temps.
Mister Pinot.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais
un peu trop.
Qu'on fasse faire des jeux, comme ça on pourrait pas faire les deux à la fois.
Sur le Mac App Store.
Mais oui, il serait content. le problème des programmeurs, c'est que d'une part, en fait, c'est souvent des ingénieurs hyper calés. Les gros programmeurs dans les grosses boîtes qui font des moteurs, etc. Ils sont plusieurs, c'est toutes des équipes. Alors vous me direz, c'est exactement comme les artistes, etc. Et il y a toujours un lead programmeur qui manage tout ça. Mais c'est pas forcément des très grands communicants.
C'est ça.
Qui sont, voilà.
Parce qu'on en croise parfois.
Oui.
Ils ont pas super envie de se mettre devant un micro ou de donner
ils ont
une interview.
Pas forcément envie qu'on les connaisse.
Ce sont les travailleurs de l'ombre.
Mais par contre, c'est un petit milieu, j'imagine, et les gens doivent savoir où sont les bons programmeurs.
En Chine,
nous, on les connaît pas. Non, mais nous, on les connaît pas, mais je veux dire, ceux qui sont game designers, les producteurs, etc., ils savent qui débaucher. Qui
ouais, mais je pense qu'ils bougent beaucoup, moi, à mon avis, les programmeurs.
Pas,
je
crois, pas tant que ça. Non. Quand t'as un très bon programmeur, c'est comme un très bon artiste, il reste chez
la maison. J'ai vraiment l'impression qu'ils bougent pas mal quand même. Enfin, certains d'entre eux, après, les très très bons, peut-être pas.
Mais c'est.
Bah en tout cas, effectivement, si on découvre comme ça, enfin vous savez que sur Gameblog, on est très attaché à valoriser les créateurs. Alors un programmeur est lui aussi à sa manière un créateur,
il
fait partie de l'équipe. Bah quand on a des programmateurs qui auront envie de s'exprimer, de raconter des choses, franchement,
programmeur, avec
programmeur, avec grand plaisir, on sera là pour recueillir leurs impressions sur les coulisses d'un développement, sur les problèmes qu'on peut rencontrer, parce que Dieu sait qu'il y en a.
Oh,
parce que désormais, quand même, leur métier est devenu extraordinairement complexe.
Et puis il y a un autre truc aussi. C'est que les programmeurs, ils vont parler de quoi ? De programmation.
C'est pas très accessible parfois.
Et voilà, c'est plus facile d'expliquer une vision artistique ou un besoin ludique ou des choses comme ça que d'expliquer bah écoute, là j'ai fait mon shader comme ci, comme ça, parce que voilà.
Mais qu'est-ce qu'un shader ?
Si effectivement il y a un programmeur ou deux qui veulent parler de leur boulot en disant ce qui se fait de mieux actuellement, où sont les meilleurs, dans quel pays, etc., quand ils bossent. Pourquoi pas faire l'objet d'un podcast.
Mais on lance un appel. Vous qui nous écoutez, ou si vous êtes pote d'un programmeur, etc., qui a envie de s'exprimer sur la chose, bah envoyez-nous un MP à la rédaction de Gameblog. Ça marche mieux que le mail parfois. Un MP avec les coordonnées de la personne, on rappellera et on verra. On pourra peut-être faire une petite interview, etc., ou l'inviter dans un podcast pour justement faire découvrir cette partie effectivement un petit peu méconnue du développement de jeux vidéo. Allez, nouvelle question, celle de Wishmaster.
Elle était bien sa question.
Ouais, cette génération de consoles est fort longue, plus de 5 années.
T'as oublié la parenthèse.
C'est pas si.
Ça veut dire quoi ?
Comme ma bite.
Oh. D'accord, CMB, je ne savais pas.
On mettra un CMB, mais
plus de 5 années. C'est positif selon vous ?
Attends, mais je me rappelle plus de la question.
Cette génération de consoles est fort longue, plus de 5 années. Est-ce que c'est positif selon vous ?
Pour moi, oui.
Oui.
C'est
bah,
très bien.
Pour nos finances et puis pour laisser le temps justement aux développeurs, parce que c'est de plus en plus difficile de maîtriser les hardware.
Et eux, ils sont très contents.
Et d'arriver à un degré de qualité. C'est vrai, souvent, regarde la PS2, tout ça, c'est à la fin de génération qu'on avait les jeux utiles, etc.
Arrivé au max, il faut déjà passer
à autre chose.
Voilà.
Et là, j'ai l'impression qu'on en est justement au point où là, les hardware commencent à être vraiment super maîtrisés. Et là, c'est un bonheur de voir tous ces jeux sortir, nous impressionner.
Parce qu'on est encore impressionnés.
Et puis, on n'a pas à débourser des thunes tout de suite. Voilà, c'est plus économique.
Et puis, c'est moins ado. La course à la nouvelle machine tout le temps. On veut racheter et tout, on se bat toujours. Genre, on est sollicité commercialement. Là, vous avez une PS3, vous avez une Xbox 360. Bah, vous savez que vous en avez encore deux bonnes années devant vous. Avec, regardez 2011, le listing, on l'a fait la semaine dernière en podcast. Et puis, il y a un dossier sur Gameblog. C'est ahurissant. Et en 2012, il y a déjà des jeux qui sont annoncés pour 2013 et pas n'importe lesquels.
Il y a juste Nintendo qui doit se dépêcher parce que, effectivement, ils sont partis avec un hardware beaucoup plus limité que les autres.
Donc, il est forcément plus obsolète à les autres. C'est
bah, disons qu'il a, la Wii, elle a été maîtrisée très vite, quoi.
Bah ouais, la génération d'avant.
Oui, c'est ça.
Donc bon, et puis effectivement, généralement, là, ils l'ont tous annoncé, hein, ça va être une génération de 10 ans, de vraiment 10 ans. Ce qui n'empêchera pas, a priori, hein, d'ici 2013, de commencer quand même à entendre parler de remplaçants des PS3 et Xbox 360. Mais ça va, on a le temps.
Et puis, oh, je suis impatient de connaître le nom de la prochaine Xbox.
Ouais.
Vraiment, ouais, ils se sont mis dans la merde avec ce truc.
Mais, on...
on est impatient de savoir depuis qu'ils l'ont lancé.
Ouais. La Y-Boy.
On verra, à suivre. Mais surtout, n'oubliez pas, c'est les jeux qui font la différence. Donc savourez les jeux plutôt que les machines. Allez, alors là, je peux pas. Là, voilà, c'est la dernière question, je peux pas. C'est le véritable pseudo de cette personne. C'est donc 4N701N3.L35P. 1N3.
Oui, alors
c'est en langage
c'est
3 égale
alors le 4 c'est quoi, A.
Ça doit être du Antoine. Non, c'est Antoine
Glichelu.
Antoine Lespine. Antoine
Lespine.
C'est quoi son langage?
Antoine Lespine, nous t'avons démasqué.
C'est
ça, voilà.
Eh bien, voici ta question, Antoine Tonio. Pourquoi un jeu comme The Last Story est sous-newsé? Oui, c'est un mot qui n'existe pas. Par exemple, news qui ont plusieurs jours de retard. Enfin, encore faut-il qu'elles arrivent un jour, alors qu'il est prometteur et vachement attendu. Est-ce que parce qu'il est sur Wii?
Mais attends, c'est un de nos jeux les plus.
Mais grave. Ouais, ouais. Alors là, je l'ai mis parce qu'on n'a pas compris.
Je m'inscris au fond.
Alors, je suis allé voir, hein, je me suis dit, bah merde quand même.
Alors
la story,
attention, mais moi je voudrais dire un truc au lecteur. C'est vrai que de temps en temps.
Lecteur,
Non. Si comme moi, il y a quelques années avec Shenmue, t'étais monomaniaque sur un titre.
Comment ça, il y a quelques années, attends.
Ouais,
je non, mais je veux dire, au moment où Shenmue sortait, où on parlait de Shenmue 2, etc. Moi, j'étais monomaniaque dès qu'il y avait, mais ne serait-ce que le début d'une micro-news qui sortait, j'étais au courant, etc. Alors, c'est vrai que, de la même manière que... je veux dire, avec la story comme avec plein d'autres jeux, finalement, on n'est peut-être pas sur la brèche à ce point-là,
parce qu'on est
en permanence, etc., de chaque petit écho, parce que c'est pas forcément
parce
non plus super intéressant. Mais moi je trouve que
alors
on parle
c'est
de la
c'est que ça n'a rien à voir avec le fait que ça soit sur Wii, ça c'est sûr.
Soyons
factuel.
Il y a eu 72
je suis allé
news
voir si on avait sous-newsé ce jeu. Alors il y a quand même eu à peu près une trentaine de news.
Ah oui, c'est quand même pas mal sur,
sur un laps
jeu.
De temps finalement assez court, puisque le jeu, on commence à avoir vraiment des informations il y a quelques mois seulement.
Ouais,
vous savez à quel point c'est le nouveau RPG.
Moi, je bien avoir fait des news en expliquant toutes les infos sur le mode en ligne.
Avant,
sur,
on a fait
le système de combat.
Nobuo Uematsu, on l'a accompagné, on en a parlé extraordinairement souvent dans les podcasts.
Ce génie mental.
On a couvert la conférence qui a eu lieu il y a quelques jours, fin d'année, fin décembre, des Nobuo Sakaguchi. Grand résumé de tous les points, la vidéo de 45 minutes, une heure. Surtout.
En résumé, Antoine,
mais
c'est injuste.
Oui, peut-être.
Pour tu vas t'abonner premium, mais tout de suite.
Je crois que t'as raison, c'est parce qu'il est monomaniaque et qu'il a la sensation que ça n'arrive pas assez vite et pas assez.
Mais c'est pas péjoratif, hein. Je trouve ça bien d'être passionné par
un jeu. Moi aussi, bien sûr. Oui, c'est vrai que monomaniaque, quand tu le prends comme ça, ça fait un peu péjoratif.
Mais Antoine ouvre un blog, La Story.
Ouais.
Les blogs sur Gameblog cartonnent.
Et nous, de temps en temps, on reprend les contenus, on les balance en haut.
On vous valorise, on vous cite.
Quand il y a des news intéressantes, on se souvient de Wanda No Orchestra avec GT5.
Exactement.
Et lui était sur la brèche, mais alors du feu de Dieu, et plus que nous, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de problème pour le dire.
Bien sûr.
Donc voilà.
Pas de problème.
Parle de La Story dans ton blog.
Voilà. Et en tout cas, on l'attend grave le jeu et on a super envie d'y jouer.
Mais je crois que c'est même peut-être le jeu Wii le plus attendu de la
Oui, grave.
Oui.
Grave. Voilà. Allez, on arrive à la deuxième partie de ce podcast. On va répondre aux questions qui s'intéressent à l'actualité de Gameblog, le site. Alors là, plein de questions, plein de débats, plein de propositions, etc. Dont certaines très très bonnes, vous allez voir.
Ouais.
Alors, première question de Ikasa.
Ikasa, la vaisselle.
Oh, ok, j'ai juste une question. Celle-ci est juste de la curiosité et non pas une volonté de ma part de créer une quelconque polémique. En étant journaliste dans le jeu vidéo, votre statut vous permet d'obtenir gratuitement beaucoup de jeux de la part des éditeurs pour votre travail. J'imagine que vous pouvez les embarquer chez vous pour votre plaisir personnel et cela ne me pose aucun problème.
Cool. Merci. À partir de là,
ma question est donc la suivante. Achetez-vous toujours des jeux? Contribuez-vous toujours à l'économie du jeu vidéo?
Attention, 1, 2, 3.
Oui! Bien sûr, on achète encore plein de jeux. Alors, on va citer un peu les derniers jeux qu'on a achetés. On va commencer par un.
Le dernier en date, moi, c'est Deus Ex Human Revolution que j'ai pré-réservé dès que c'était possible. En édition augmentée, bien sûr.
On l'a acheté tous les deux d'ailleurs. L'édition Codex d'Assassin's Creed, qui est livrée donc avec le fameux Codex d'Assassin's Creed 2. C'est en principe pour ça, toi aussi, hein, que tu l'as acheté.
Oui,
une superbe édition collector. Moi, c'est le dernier truc que j'ai acheté, je crois.
Traz.
Moi, c'était des jeux DS pour ma fille, mais alors les noms, je sais
pas. Ah non, si, c'est ça, moi, c'est aussi. Vrai. J'ai oublié. Les deux derniers jeux que j'ai achetés, c'était deux jeux DS.
Pour Noël, tout ça.
Pour Noël. Moi aussi.
Bah, moi aussi
j'ai acheté
Noël.
New Super Mario Bros.
Professeur Layton.
Professeur Layton, j'ai acheté aussi.
Voilà.
Moi, j'ai acheté la version collector d'Alan Wake parce que je voulais vraiment.
Moi aussi.
Parce que on va.
J'ai toujours pas joué. J'ai acheté.
Pas moi, j'avais pas cette une.
J'ai acheté Dead Space. J'ai racheté parce que effectivement, l'éditeur nous l'avait filé sur PS3, mais moi, je voulais y jouer sur Xbox. Et voilà. Et
non, bon, mais alors, ce qu'il faut savoir,
et sur
fait,
le téléchargement
que...
aussi, hein, Limbo,
c'est qu'un éditeur.
J'ai acheté.
Voilà, on a
tous les jeux comme ça.
Ce qu'il faut savoir, c'est que qu'un éditeur n'envoie pas une version de jeu par rédacteur d'une rédaction. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, si on veut jouer au jeu, on est obligé de les acheter comme tout le monde. Voilà. Donc ouais. Déjà, il y a ça. Et puis, la plupart du temps, les jeux, on peut les emprunter. Donc ça, c'est vrai que c'est pratique. Ouais. On n'est pas obligé d'acheter tous les jeux auxquels on a envie de jouer. Et puis, en plus, ils s'empilent tellement qu'au bout d'un moment, ça.
Mais la rédac, il y a une bibliothèque des jeux et on les ramène, etc. Donc,
ou pas.
Oui.
D'ailleurs, avant, on devait me ramener Darksiders.
Bah, tu me l'as dit hier.
Moi, je t'ai prêté mon GTA.
Encore un
4,
encore un jeu que j'ai acheté aussi.
Moi, j'ai toujours pas rendu. J'ai toujours pas joué à GTA 4.
GTA 4.
Oui.
Ah oui, mais et toi, t'as mon Call of Duty.
Vous l'aurez compris, c'est certain, c'est sûr qu'on a des facilités. Mais à la fois, on travaille dans ce milieu. Voilà, un boulanger, il a des baguettes de pain. Voilà.
Il y a la satisfaction aussi d'acheter, d'aller dans ta boutique ou de commander sur internet. Parce que moi, je commande aussi beaucoup sur internet et de recevoir le truc.
Sur Amazon.fr, bien sûr.
Oui, bien sûr. Bien entendu.
Et on ne pirate jamais. T'entends?
T'entends? Ça, c'est sûr.
Et de dépaler le truc que t'as acheté, c'est pas tout à fait la même chose.
Et alors, on a rarement les versions collector. Et voilà, on est aussi des fans de jeux vidéo, je crois.
Ah oui, puis il y a un autre truc.
Bah, on a envie des collectors, voilà.
Il y a un autre truc, c'est que les versions que nous envoient les éditeurs ne sont pas tout à fait les mêmes versions que vous avez, vous. C'est des versions dites promotionnelles dans lesquelles il n'y a pas de manuel. La jaquette, elle est barrée d'un grand truc pour avoir.
Voir, il n'y a pas de jaquette.
Voir, il n'y a pas de boîte, il n'y a pas de machin.
Pas de jaquette.
Et ça, c'est pas possible.
Bah non. Quand on est un peu collectionneur comme nous sommes ici à la rédaction, bah,
en tant que fan,
on prend nos sous et on va acheter une version. Voilà.
On mange pas pendant une semaine, mais c'est pas grave.
Vous avez cette réponse, oui, on contribue encore à l'économie du jeu, ça nous paraît important.
Et on mange des pâtes.
Être en accord avec ce qu'on dit. Double question, celle de Sirocco et Alcarax. Après une année extraordinaire pour les actifs du site, notamment avec l'importance qu'a pris l'espace communauté et blog, excellente initiative au demeurant, prévoyez-vous d'apporter des nouveautés majeures au site ou souhaitez-vous consolider les spécificités de Gameblog? En clair, plein de nouvelles possibilités pour les membres cette année ou continuer à exploiter ce qui fait le succès du site? Si vous pouviez nous dévoiler quelques initiatives et projets de votre part, ce serait sympa. Et après, il y a plein d'autres questions que je poserai après. Eh ben, bon, je la pose tout de suite. Des annonces quant à un agrandissement de l'espace VIP avec la venue de Marcus, par exemple, ou d'autres noms qui font rêver les gamers français.
Jack Lang.
Alors, déjà sur ça, oui, les VIP, ça va continuer à s'enrichir. Mm-hmm. On l'a fait tout au long de l'année. Il y a eu des nouveaux blogs qui se sont ouverts et il y en aura d'autres.
Pouvoir suivre un très gros jeu du début de l'année 2011 avec pas mal de coulisses. On croise encore les doigts. Chaque fois, il faut le savoir, c'est une négociation. On essaye d'expliquer pourquoi c'est bien machin, quel est leur intérêt de le faire, etc. Voilà, et après, ils sont totalement libres. On fait pas, c'est pas du publi rédactionnel et rien. Ils écrivent leur truc, voilà. Et puis après, à vous les joueurs de l'apprécier, de pas l'apprécier, de commander, de pas commenter.
Voilà. Donc ça va continuer. Et puis alors évidemment pour le reste de la question
des nouveautés
de Sirocco. Oui, il y a des nouvelles choses.
On peut en parler
non,
petit peu.
Non, on peut pas, c'est interdit.
Ou pas.
On va nous leur piquer comme tout ce qu'on nous a piqué depuis 3 ans. On s'est fait piller. Et par certains escrocs d'ailleurs.
Par des sites dont la première lettre est la même que Gameblog.
Incroyable.
Pas seulement, je pense pas seulement ça. Moi.
En fait, on va pas le dire, hein, mais il y a deux grosses parties essentielles qui
alors,
vont
ce qui est déjà
évoluer.
Sûr, c'est que ce qui est déjà en place, les blogs VIP et l'aspect communautaire, on va l'améliorer.
Oui.
Et ça, c'est pas vraiment un nouveau truc, mais au sein de tout ça, ça va permettre des nouvelles choses.
Ouais, plein de nouvelles choses.
Et par-dessus ça, il y a un autre gros projet pour cette année, que vous devriez voir cette année, et qui se mélangera à l'ensemble du site.
On veut vraiment vous valoriser encore plus. Vous avez vu avec l'apparition du top 50, ça c'est la poussière de prémisse de ce que va être la suite, mais c'est pour justement que vous puissiez mieux vous jauger, où est-ce que vous en situez, est-ce que vous êtes suivi ou pas, et on a vu que vraiment ça vous avait fait plaisir et que vous êtes encore plus actif, et il y a vraiment des blogs qui défoncent. Nous on y est, mais très fréquemment
c'est
maintenant.
C'est aussi, c'est un truc qu'on va probablement
et cette page va pas mal changer. Ouais. Ouais. On va vous valoriser encore plus. Vous avez vu que cette année, c'est la première année en 2010, fin 2010, on a commencé à le faire. Les meilleurs posts, certains on les met carrément dans le fil d'actualité. On vous valorise de plus en plus sur les articles lecteurs de Gameblog est à vous. Ça, on va continuer
même
à le faire.
Sur des événements, hein, Nintendo World 2011.
Effectivement. Oui. À 2h du matin, bim, on a poussé en home, un des posts d'un Gameblogger qui a fait vivre l'événement en live avec la vidéo, les commentaires. C'était super et on leur remercie infiniment. Donc voilà, toutes ces initiatives, on est très regardant de tout ce qui se passe et on veut véritablement vous valoriser. Ça va être un point important.
important. Et est-ce que juste le truc qui arrive le plus vite, est-ce qu'on peut dire qu'au niveau des tests,
oui, ben oui, on en a déjà parlé.
On en a déjà parlé.
Mais effectivement, ça va venir très vite. Il est même fort possible que ça soit. Il est même possible que ça soit déjà le cas.
Ce serait cool.
Au moment où on enregistre ce podcast, puisqu'on l'enregistre forcément avant, voilà. Donc, il est possible que ça soit déjà en ligne, mais effectivement, les tests vont un petit peu changer. Pas. C'est un truc en plus.
C'est toujours la
rien de révolutionnaire.
La qualité beaucoup demandé quand même.
Voilà. C'est un côté très très pratique et franchement, ça va plaire forcément.
Un petit module de plus dans la page des tests.
Et puis la question, elle était nominative. Marcus. Hein. Marcus, voilà. Alors, en plus, c'est un ami. Vous savez qu'il est déjà venu ici en Bécher, podcast, etc. Vous savez aussi où il se trouve actuellement. Eh bien, moi, ce que je vous dis, c'est, vous savez qu'on a des moyens qui sont pas les moyens forcément de plein d'autres concurrents et que des gens avec la notoriété de Marcus, bah, ça se paye. En revanche, parfois, le cœur peut aussi parler. Si vous avez véritablement envie que Marcus rejoigne l'équipe de Gameblog, il a un Facebook.
Ouais, c'est ce que
il y a énormément
dire.
De personnes qui sont là avec vous. Allez sur sa page et dites-lui, Marcus,
on
est Gameblogger, on a véritablement envie que tu participes à l'aventure Gameblog. N'hésitez pas à lui dire, vous savez, parfois, ce genre de petites choses, ça marche pas tout de suite, mais ça fait son chemin. Et c'est pas dit, parce que nous, effectivement, bah, ça pourrait nous faire plaisir que Marcus vienne, comme ça, ponctuellement, rejoindre un petit peu Gameblog. En tout cas, qu'il puisse le faire, parce que, pour rien vous cacher, c'est pas toujours, on l'autorise pas toujours à le faire, parce que nous sommes concurrents, voyez-vous.
C'est un peu normal, hein, quelque part aussi.
Voilà, oui, donc n'hésitez pas à faire passer le message, je vous assure, parfois, ça aide. Allez, nouvelle question, la secousse, c'est son nom. Vous allez pas me croire, mais je suis premium et je n'ai jamais regardé les...
Non, il est premium, c'est incroyable.
Attendez, parce que la secousse, il a une idée fantastique.
Alors vas-y.
C'est
vrai.
Vraiment, j'ai vu ça, j'ai fait, putain les gars, je vais vous en parler, c'est génial.
Il a inventé le double premium.
Donc la secousse, merci.
Il a pas le temps de regarder les vidéos.
Vous allez pas me croire, je suis premium, j'ai jamais regardé les podcasts vidéo, puisque vous le savez, l'un des avantages premium, c'est de voir les vidéos des podcasts. Pas le temps. Par contre, je les écoute tous dans ma voiture pendant mon trajet domicile-travail. Ma question est simple.
T'as dit non, ton trajet.
J'aimerais aussi écouter tous les versus de Cyril Dreveil et HL dans ma voiture. Quand est-ce que je pourrais les télécharger comme vos podcasts? Serait-il possible d'avoir une fonction... Ah oui, dans vos podcasts, ça c'est la première partie de la question. Deuxième partie de la question.
Et ça, c'est déjà, il faut qu'on le fasse. Hein.
C'est une bonne chose, ça. Ouais.
C'est génial.
Très bonne chose. Mais même chacune des émissions, tac, podcast.
Très bonne idée.
Vous les écoutez. Donc ça, c'est très très bien. On va essayer de voir comment on peut le faire techniquement au plus vite. Et puis la deuxième partie de la question, et c'est là où c'est brillant. Serait-il possible d'avoir une fonction mémo pour enregistrer dans son espace personnel les articles des joueurs qui nous tiennent vraiment à cœur? J'ai lu de superbes articles de la communauté, mais je me souviens ni de l'auteur, ni du titre de l'article, et c'est parfois un vrai calvaire pour les retrouver. On pourrait même rajouter en bas de l'article une phrase du style « X personnes ont mémorisé cet article ». En gros, se créer une bibliothèque de ses articles préférés.
Oui, je trouve ça génial. C'est génial, et ça fait partie du genre de choses qu'on va implémenter dans l'amélioration de tout ce qui est communautaire, etc., vis-à-vis des blogs, vis-à-vis des articles, vis-à-vis de tout ce qui est participatif, en fait, dans le site, et puis aussi de pouvoir se trouver les uns les autres, parce qu'en ce moment c'est juste un cauchemar pour être objectif.
Alors, compliqué. Pour info, parce que vous le savez peut-être pas, parce qu'on l'a pas énormément valorisé et tout, mais désormais vous pouvez retrouver un blog avec un moteur de recherche. Pour ça, il faut aller dans la zone blog.
Un blog et un post.
Un blog et un post en tapant dans le moteur de recherche. Il faut bien sélectionner si vous cherchez un blog ou si vous cherchez un article. Vous voulez une information sur Assassin's Creed qu'un blogueur pourrait marcher,
vous
tapez Assassin, Hunter, bim, tous les articles avec Assassin quelque chose vont ressortir, et vous cherchez le post ou le blog de. Je sais pas, YV4850, vous tapez son pseudo, tac, il apparaît.
Et pour trouver ce champ recherche à l'heure actuelle, il faut cliquer sur le lien qui affiche tous les blogs, soit en bas de la liste du top 50 des blogs, soit dans la colonne qui est sur la droite du site.
Là, c'est tous les posts.
Où c'est les derniers posts qui sont mis, voilà. Et là, vous avez deux liens sur cette page-là qui permettent d'accéder à cette page sur laquelle vous pouvez recharger ce que vous
dans
voulez.
La zone.
Mais tout ça sera amélioré, justement. Et effectivement, donc, pour revenir à cette idée-là de mémo, de bookmark, en fait, c'est des bookmarks internes au site. C'est génial. Donc,
je crois qu'on est tous d'accord. Ces articles.
Et Mr. P vient de se pendre.
Voilà. Merci la secousse. Allez, nouvelle question, celle de Zelkiel. Je n'aurai qu'une seule et unique question. À quand l'abonnement premium par Allopass? Je n'attends que ça pour m'abonner pour ma part.
Allô?
Messieurs,
passe ton tour.
Je passe.
On en parle souvent. Et...
On en parle, oui.
On en parle, c'est tout.
Non, c'est pas ça. C'est que c'est un moyen de paiement assez.
C'est assez répandu maintenant, c'est vrai.
Non, mais c'est répandu. Mais c'est assez contraignant.
Cul, tout ça, ils font tout ça.
C'est assez contraignant parce que c'est des micro-paiements. En fait, tu dois acheter plusieurs codes pour arriver à un certain prix, etc.
Ce sont des nano-paiements.
Donc ça voudrait dire. Non, ça voudrait dire qu'il faudrait éventuellement qu'on pense à des abonnements premium à la semaine. Ça c'est une chose, et l'autre chose c'est que je crois qu'ils prennent des énormément de commissions hein, par rapport à un paiement par PayPal ou par carte bleue, donc il faut aussi qu'on regarde ça de près si on doit majorer un petit peu ces abonnements là ou quoi. Enfin, il y a l'aspect économique, l'aspect pratique, mais on sait bien évidemment que c'est attendu par beaucoup de gens, donc on y réfléchit et on est penché dessus. Voilà.
Allez, nouvelle question, celle de Jinko. Il a deux questions. Première question. Dans un avenir proche, testerez-vous des jeux que peu de personnes attendent? Exemple, Deadly Premonition, qui est déjà sorti et qui est une tuerie, ou des jeux comme Yu-Gi-Oh! Qui, à part les fans, n'intéresse pas grand monde.
Julo.
D'abord, on dit pas Jinko, on dit Ginko, je pense.
Voilà,
c'est parce que tu me cherches.
C'est possible. Le lourd.
Et ensuite, Deadly Premonition, je suis en train d'y jouer et je veux absolument le finir avant d'écrire un test. Et je l'ai commencé très tard, il y a pas longtemps. Il y a eu les vacances au milieu et tout. Donc, je suis très en retard. Je peux peut-être vous en dire un petit peu plus sur le jeu. Ça coûte pas cher, c'est 25€, et à partir du moment où on est prêt à accepter une réalisation extrêmement datée,
Dreamcastienne
à aussi niveaux, bien dans les graphismes que dans les contrôles, et il y a des aberrations du genre la carte du jeu qui est pas pratique du tout, mais en dehors de ça, c'est un jeu qui s'annonce mais extraordinaire, une expérience. C'est ça, c'est Twin Peaks mélangé à Shenmue, mélangé à GTA, mélangé à Silent Hill. Voilà, en gros c'est ça le cocktail, et c'est détonnant parce que c'est vraiment à part et hyper surprenant, et je vous promets, il y a un test qui va arriver et je suis très en retard et j'en suis désolé, mais je peux d'ores et déjà vous le dire, si vous aimez les expérimentations un peu vidéoludiques, si vous êtes prêt à faire des sacrifices pour un putain de scénario, une super ambiance, etc., allez-y, achetez-le. Voilà,
c'était un prétest. Question 2, pourriez-vous faire des défis avec nous comme font certains sites? Vraiment sympa. J'espère que ces questions n'ont pas déjà été c'est une très bonne idée aussi. On va y réfléchir,
on y a déjà pensé,
mais là c'est pareil, c'est toujours le côté pratique un peu de la chose, parce qu'en théorie c'est très 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 beau, mais il faut trouver du temps, etc., et c'est pas si évident que ça quand même.
Faudrait faire ça sous forme de défi. Je défie la rédac sur tel jeu, on s'entraîne et on essaye de battre le lecteur.
On l'avait déjà fait avec Wii Sport Resort. Ça avait super bien marché, donc on réfléchissait à comment le faire, mais vous le savez, Gameblog, on n'est pas encore 40 millions, ça prend du temps, il y a des news, il y a des tests, il y a plein de choses à faire, et il faut à chaque fois qu'on décide un truc, bien réfléchir comment on alloue notre temps,
parce qu'on veut pas sortir les projets n'importe quoi. On va se faire torcher si on le fait maintenant.
Mais
ça
je pense
sera pas
que c'est ça qu'ils attendent de voir, qu'on est nul en fait.
Vous risqueriez d'être déçu parfois. Allez, nouvelle question. Une question de Enots. À quand une chronique traitant de l'actu musicale issue des jeux vidéo, sorties CD, concerts, téléchargements? Pourquoi un tel déséquilibre entre la mise en avant des dossiers de fond et chroniques plus légères sur Gameblog? Je trouve en effet que malgré le fait que tout passe par la home, certaines chroniques sont surexposées comparées à d'autres, et injustement, ça tombe sur les interviews de Fasquill ou les chroniques d'Anne Ferrero.
Rédacteur en chef.
C'est, en fait, on produit tellement de contenu que c'est très difficile de donner une place juste à tout, déjà, et qu'après il y a une question de période. Alors, les chroniques d'Anne Ferrero, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle,
c'est pas les chocolats. Hein.
C'est pas des chroniques d'Anne Ferrero. Anne Ferrero les traduit, ce sont des chroniques d'un auteur américain.
C'est un journaliste de One Up. Si je dis pas de bêtises, ou un ex-journaliste de One Up.
Non.
Gamma Sutra.
Il poste en fait sur son blog.
C'est un journaliste
blog,
indépendant, mais il bosse pour One Up.
Voilà, il fait des interviews en japonais. Il est traduit en américain et Anne est traduit en français sur effectivement la musique de jeux vidéo. Ça s'appelle Soundbites. Il y en a eu 3, je crois, pour l'instant.
3, ouais.
C'est très irrégulier. Parce que ça dépend de lui, en fait. C'est quand il a envie de les faire, il les fait comme ça.
Quand il a l'occasion aussi de rencontrer un compositeur, etc., ou ce genre de choses.
Voilà, quand il est dans un événement particulier.
C'est l'inspiration, comme Alan Wake.
Fasquill, c'est pareil, fait des interviews au moment où il a la possibilité d'en faire une qui l'intéresse de faire. Et donc, du coup, ces rendez-vous-là, en fait, ne sont pas des rendez-vous, en fait. C'est ça, c'est pour ça qu'on a cette sensation-là aussi.
C'est que dans la régularité.
C'est très apériodique. Il y en a pas beaucoup, et donc du coup par rapport à d'autres rendez-vous plus traditionnels,
parce qu'à chaque fois
moins mis en avant.
Ils passent en deux, etc. Enfin,
ils sont valorisés
lors de moments où ils sont là. Alors on en fait une, certes non, pas non, une mais parce que les unes généralement, mais ça va peut-être changer en 2000.
Ah, si, c'est déjà arrivé hein, sur les
Soundbites, je suis
pas sûr. Non, sur Soundbites non, mais
en deux Soundbites.
Mais voilà, en 2000 ça va peut-être changer. C'est que généralement les unes, vous le voyez, c'est généralement les rendez-vous de Gameblog, c'est-à-dire le podcast versus Salomé, les No Life Corner, etc. Et parfois une grosse actualité, mais peut-être que ça va changer. On est en train de réfléchir à tout ça très honnêtement, et
on voit vos feedbacks, on les entend. Après, c'est des réflexions. Et qu'est-ce qui est le plus judicieux à l'instant T, etc.
Mais on réfléchit aussi tout le temps à comment mieux mettre en avant les choses sans qu'elles se parasitent les unes. Ouais, c'est super.
Faut que vous sachiez que c'est un casse-tête. C'est on se prend la tête très souvent et il y a quand même beaucoup de choses qui sortent tous les jours sur Gameblog.
Ouais.
Et tu peux pas mettre le même espace pour tout, quoi.
Et puis, actualité musicale, il y a aussi un thème qui est fait, je crois.
Oui, playlist.
Playlist.
Oui.
Où il y en a, alors certes, c'est là aussi assez irrégulier, je m'en excuse parce que c'est moi qui m'en étais occupé. Mais j'en referai aussi, j'espère, quand j'aurai un petit peu plus de temps. Voilà, mais une fois de plus, comme on le disait tout à l'heure, achetez vos jeux, etc. Bah, ces articles-là, parlez-en et lisez-les. Mm. Parce que c'est des articles qui demandent beaucoup de temps.
Oui.
Et quand ils sont lus par 45 personnes, et je vous jure que c'est les vrais chiffres, là où un autre article est lu des dizaines de milliers de fois, c'est vrai que nous on se pose la question, c'est pas pour la course au clic du tout, on va reparler, il y a une question de plus tard, mais c'est juste qu'on se dit, mais est-ce que ça intéresse vraiment les gens? Et du coup, est-ce qu'on va valoriser vachement un truc qui a l'air de pas intéresser les gens? Mettez-vous aussi à notre place, c'est-à-dire que nous,
Le temps passé sur ce truc-là, voilà. Tu dis, est-ce que j'aurais pas mieux fait de faire autre chose?
Ben c'est ça.
Alors,
si ça marchait raisonnablement, ça veut dire qu'on demande pas que ça fasse 10 millions de clics, etc. On n'est vraiment pas dans cette logique, malgré ce que certains d'entre vous peuvent penser. Mais il y a un moment, si vraiment on voit que ça marche pas, interview de Tetsuya Mizoguchi pour Child of Eden. Les gars, il y a eu moins de 300 lectures de cette vidéo. Là où l'interview de Katsuni, par exemple, puisqu'on va en parler dans quelques instants,
quelques dizaines
de 15 000. Bah, y a un moment, on se dit, honnêtement, ça nous attriste. On préférait largement valoriser grave Tetsuya Mizoguchi, mais on se dit, mais ça intéresse personne en fait. Voilà. Donc, comprenez aussi un peu notre réflexion et aidez-nous à l'étayer, à peut-être à faire changer aussi un petit peu les choses. Clic est un acte militant. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais c'est une réalité. Voilà. D'ailleurs, on va rebondir sur la question, puisqu'on en parlait il y a quelques instants. Question posée nombreuses reprises. Hein. J'ai sélectionné celle de Black Label, de Thunder Tiger et de Ben Bass. Alors, voici leur question. Il est fort probable que Clara Morgan fasse de temps en temps un tour au cinéma pour aller voir Avatar ou Inception. Pourtant, Allociné s'en fout. Et moi, encore plus. Je me permets de dire que c'est pas vrai. Hein. Mais bon. Comment se fait-il
c'est pas
donc...
vrai qu'Allociné s'en fout.
Oui, ouais. Ils s'en foutent pas du tout. Ils font des news, etc. Mais bon. Comment se fait-il donc que lorsque Katsuni joue aux jeux vidéo, cela devienne intéressant pour vous d'en faire des news? Sur le même thème, y a-t-il, selon vous, un complexe du joueur? D'un site à l'autre, la presse du jeu vidéo semble enthousiaste à l'idée de cautionner la cause à tout bout de champ avec des Ramsey joue au jeu vidéo, nous l'avons interviewé, l'acteur de Largo Witch dont je ne connais pas le nom, je crois que c'est
Thomas Sisley.
Joue à Call of Duty, vite faisons une vidéo. Cela est-il vraiment pertinent selon vous? Cela apporte-t-il quelque chose de concret aux joueurs, comme une interview d'un Christophe Uncharted Balestra, ou n'est-ce qu'une quête à la reconnaissance, un peu comme un candidat à la présidence qui collectionne les people avant une élection? C'est une bonne question. Ça mérite d'être posée.
On peut répondre à la seconde partie.
La première partie. Hein. Donc, lorsque Katsuni joue aux jeux vidéo, cela devient intéressant. Alors, Katsuni ne joue pas aux jeux vidéo. Quand Katsuni joue aux jeux vidéo, on s'en fout. Quand Katsuni participe à un jeu vidéo, bah ouais, on en parle au même titre que plein d'autres choses. Ok. Quand Clara Morgan va au cinéma, on s'en fout. Bah, Allociné ne s'en fout pas en l'occurrence. Mais par contre, Clara Morgan aurait un rôle dans un film.
Ah, ils en parleraient.
Vous inquiétez pas qu'ils
beaucoup,
en parleraient.
Beaucoup.
Grave. Donc c'est le même style de traitement. Katsuni, effectivement, il va avoir une interview. On vous l'a promis. Hein. Voilà, bon, très bien. Libre à vous, une fois de plus, de ne pas la regarder si vous jugez que ça ne vous intéresse pas véritablement. Alors, certains disent c'est pas un argument, c'est pas. Bah si, sur un site comme Gameblog, il y a par jour des dizaines et dizaines par jour d'informations. Sélectionnez-les. Faites votre tri. Voilà. Par contre, ça ne se fait jamais, on vous l'assure ici, tous les yeux dans les yeux, au détriment d'autres choses. Christophe Balestra en interview, Rouv Issasori en interview, des chats avec des développeurs japonais, américains, etc. On les fait grave et ça nous fait kiffer.
Bah oui.
Franchement,
quand on passe 45 minutes avec ces devs à parler comme vous l'avez vu dans ces deux vidéos, évidemment qu'on surkiffe et qu'évidemment on veut le partager. Donc
et on le valorise et on en fait et on le tease et on dit attention, il va y avoir Rouv Issasoria qui va venir sur Gameblog et ça. On fait le même traitement, les gars. Sauf qu'effectivement, parfois ça vous énerve un peu plus quand c'est des trucs que vous considérez comme annexes. Certes, mais nous, le jeu vidéo autrement, cette fameuse phrase là, bah c'est ça. C'est englober le jeu vidéo en tout.
Et ça a toujours été comme ça.
C'est à Joypad, il y avait des telex.
Bien sûr, et après l'époque est différente et il se passe des choses différemment. Je suis pas certain qu'il y a 20 ans une star du X ou un acteur aurait eu envie de s'intéresser aux jeux vidéo et dans
l'époque avait
de faire du business avec. Mais si ça avait été le cas, on en aurait parlé aussi à l'époque.
Rocco Siffredi qui faisait la promotion d'un jeu sur Dreamcast, je me rappelle plus, un jeu de snowboard et ça, Joypad, les gars.
Bien sûr.
On a une interview de lui, plus un papier sur le jeu, la promotion. On avait suivi la campagne de pub. C'était dans Joypad, vous savez.
Je crois que les gens le retiennent moins parce qu'il a pas de ça.
Oui, et puis parce qu'à l'époque il n'y avait pas de forum.
Oui.
Sur lesquels on pouvait se lâcher derrière son écran et dire et voilà machin. On recevait aussi des lettres à l'époque.
Il faut arrêter d'être hypocrite. Il y a un intérêt pour ces choses-là et il est justifié et on ne le fait pas à contre-cœur non plus. On en parle parce que ça nous intéresse
ça
aussi.
Ça fait marrer. Voilà. Ça je veux dire, quand même, on.
Non, mais ça gravite toujours autour du jeu vidéo.
Voilà, on est un site de jeux vidéo, donc l'industrie de l'entertainment. On est des consommateurs de plein de trucs. On s'intéresse à plein de choses. Et quand il y a un rapport entre le jeu vidéo et autre chose, et que ça nous fait marrer, qu'on trouve ça rigolo.
C'est une bouffée d'air frais.
Pourquoi on s'interdirait d'en parler? Moi, cette vidéo avec Katsuni, voir débarquer Katsuni, etc., c'était super sympa. On a passé un bon moment. On le fait partager. Voilà. Enfin, je veux dire, il y a rien de grave, et c'est ça qui me fascine dans cette histoire.
Il y a rien de mesquin ni de fou,
de cynique, la course au clic. Non, il y a pas une course au clic. Mais c'est fait parce que ça nous a amusé de le faire.
Et les actualités,
après, si ça marche, tant mieux.
Voilà, et l'actualité du jeu vidéo, c'est plein de trucs. Et puis nous, on a des blogs aussi sur Gameblog, donc voilà, on aime bien parler d'autres choses, d'autres manières de la même chose, etc.
Et si à la place de Katsuni, ça avait été Bernadette Chirac, ce dont je doute.
Ça serait génial.
Ça aurait été la même.
Attends, Bernadette Chirac, elle vient à la rédaction, surtout avec ses dernières déclarations.
Ben c'est ça.
Sur le blog des Poufis.
C'est quoi,
c'est énorme, c'est énorme. Il y a eu un meurtre, un truc, et puis on lui dit mais alors qu'est-ce qui se passe et tout, c'est le chômage, etc. Alors elle fait oui c'est le chômage. Mais bon, si vous le permettez quand même, j'ai quelque chose à dire. Les jeux vidéo quand même, hein, avec tous ces trucs violents.
Moi j'ai un neveu de 14 ans.
J'ai un neveu de 14 ans, je ne comprends pas. Enfin, c'est assez rigolo. Bon, Bernadette.
Si tu veux venir dans Gameblog et qu'on fasse. Mais non, mais parce que et c'est pas une course au clic. C'est
ça nous fait rire.
Ça nous fait rire, etc. Et ce serait intéressant d'avoir des gens qui connaissent pas ou moins le milieu et voir comment ils en parlent, voir comment on peut en parler avec eux, etc.
Vin Diesel, on a essayé de l'inviter mais il est pas venu encore.
Non. Ouais. Alors qu'il a une boîte de jeux vidéo.
Bah voilà. Mais on a déjà parlé.
Nous, ça nous fait kiffer d'ouvrir l'espace du jeu vidéo. Et donc, Raon, tu voulais répondre à la suite avec Ramsey, Largo Winch et compagnie.
En fait, moi, ce que je pense par rapport à ça, donc je rappelle juste vite fait la question, c'est est-ce que tous ces people dans le jeu vidéo dont on parle tous, ce n'est pas une course à la reconnaissance? Ben, je pense que si, et je vois pas où est le problème en fait. On a été décrié pendant des années. Il est normal qu'il y ait une réaction à ça. Il est normal que le jeu vidéo essaye de s'imposer comme quelque chose de simplement mainstream dans la culture populaire d'aujourd'hui. Et il est normal que ça passe par des gens qui sont appréciés, reconnus, célèbres, etc., etc.
On aimait bien l'époque où c'était underground le jeu vidéo. On a de bons souvenirs, etc. On est parfois nostalgique et tout.
Mais c'est quand même
plus le cas. Et puis c'est cool aussi. Bon, on est toujours
content. Faut vivre avec son temps aussi.
On est toujours content de voir qu'on parle du jeu. Moi, je sais pas. C'est effectivement la reconnaissance, voir le jeu vidéo dans des sujets
traités dans les 20 heures,
plus intelligemment, en tout cas plus souvent qu'avant. Et c'est plus aussi
mais tout le monde appelait ça qu'à l'époque où c'était pas le cas, tout le monde voulait ça.
C'est toujours pareil. Aujourd'hui, quand t'es petit, t'as envie de grandir, puis quand t'es grand tu fais mieux quand t'étais petit.
Faut rester cohérent un minimum, parce que je suis persuadé que beaucoup des gens qui gueulent contre ce phénomène qui est naturel, encore une fois, dans notre société, en fait, sont les mêmes qui gueulaient à l'époque en disant personne parle des jeux vidéo, on nous reconnaît pas, on nous prend pour des débiles, etc. Ça, qu'on le veuille ou pas, ça participe à la reconnaissance du jeu vidéo, et il voit pas où est le problème, quoi.
Et l'acceptation du jeu vidéo comme en tant que loisir, comme un autre, des trucs pas forcément malsains, etc. Enfin, ça, c'est positif en fait, ça met des bonnes ondes, je trouve.
Et c'est pas parce qu'il y a ça qu'on n'a pas le droit aussi d'en parler peut-être plus sérieusement
lors d'un podcast,
psychologue, par exemple, ou des voilà, ça n'empêche pas de faire le reste aussi.
Chaque semaine, vous avez une heure et plus de podcast vraiment 100% jeux vidéo, passion jeux vidéo, etc. Quand on peut. N'oubliez pas, on peut pas faire tout ce qu'on veut, mais nous on pousse tout le temps pour essayer d'avoir plus d'infos pour vous sur le jeu vidéo. Quand on a une interview de plus d'une heure avec Rouvi Sassouria et Christophe Balestra en exclu, c'est passionnant, ça nous fait mais kiffer tout autant nous que vous, visiblement, parce que vous nous l'avez dit, de l'avoir. C'est un grand moment et c'est ce qu'on aime aussi et très clairement dans le jeu vidéo. Mais ça, plus ça, plus ça. Gameblog, c'est toujours plus, pas ça à la place d'eux ou au détriment d'eux, non. Et si vous regardez bien, si ça vous exècre les trucs un peu people machin, déjà il y a des tags, vous excluez les trucs machin, vous les cliquez pas, vous les regardez pas, et c'est les gens qui apprécient, etc., les apprécier,
Voilà. Parce que, et comprenez bien en tout cas une chose, soyons très clairs, c'est que Gameloft ne va pas changer là-dessus. Donc si vous n'aimez pas ça, ça ne sert à rien de continuer éternellement à essayer de nous faire changer sur ce point-là, parce qu'on ne changera pas, parce qu'on trouve ça bien de le faire comme ça, parce que ça nous plaît de le faire comme ça. Voilà. Et qu'on est un peu, quand même, les capitaines de ce navire.
Non, mais il faut savoir que Gameblog, en fait, nous ressemble. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, nous, il y a des trucs qui nous font marrer. Ça nous fait marrer d'en parler. On aime bien partager, etc. Et on le fait pas dans le but ultime, comme certains le pensent, effectivement, que les trucs soient cliqués à mort, etc. Ouais. Parce que, aussi, ça nous fait marrer. Voilà.
C'est dit. Allez, il nous reste 2-3 questions pour conclure ce podcast. Celle de Onink. Oui, Onink. Onink. Bonjour à toute l'équipe du site, j'ai juste une question simple concernant Gameblog. Va-t-on réentendre certains animateurs comme Angel ou Candy dans les podcasts? Vous en aviez brièvement reparlé l'été dernier et depuis, pas de nouvelles. Alors,
Pas de nouvelles parce que ça n'a pas changé en fait.
Voilà. Ils ont des travails.
Des travails.
Ils travaillent.
Candy, de toute façon, on le retrouve quand même dans les semaines sur les strips.
Alors,
sur les
si vous ne lisez pas les pitchs anxiogènes de Candy, c'est bien une erreur. Il faut les lire et revenir en arrière pour lire tous les précédents parce que c'est génial. Et Candy, il est présent toutes les semaines sur Gameblog.
Notamment celui sur
Et on aimerait bien l'avoir en podcast plus souvent aussi, mais bon.
Après, on enregistre dans la journée et il se trouve que la plupart des gens en France bossent la journée.
Voilà.
C'est pour ça qu'on le fait d'ailleurs.
D'essayer d'avoir un semblant de vie parfois et de plus enregistrer les podcasts effectivement vers 23h30 comme c'était le cas avant.
Sur une table pour lesquels on n'avait pas le choix d'ailleurs non plus à l'époque parce qu'on avait nous-mêmes des travaux.
Le labeur, c'est des travaux.
Du coup, si vous voulez des news d'Angèle, demandez-lui qu'il alimente son blog et puis il peut vous en donner, tout simplement.
Il a toujours un blog sur Gameblog.
Il peut vous en donner aussi par son blog. Nous, on l'interdit de rien faire. C'est lui qui voit.
Et rien n'est dans le marbre. Il va peut-être avoir plus de temps, plus d'envie aussi.
On l'a appelé au téléphone, rappelez-vous, au podcast bilan de la saison dernière. Bon, il était en vacances, donc on n'a pu que l'appeler par téléphone. Mais les fois où il ne sera pas en vacances ou qu'il travaillera peut-être un peu moins ou il aura du temps, avec grand plaisir, il sera notre invité dans les podcasts. Voilà, on l'a répété.
C'est valable pour CAF aussi, qui a eu un peu plus de temps en fin d'année dernière.
Donc on l'a vu un peu plus l'année dernière. Voilà. Et donc pour reposer la question pour ceux aussi qui la posent encore éternellement, Pia ne travaille plus pour Gameblog, donc par contre Pia, vous ne la réentendrez plus sur Gameblog. Voilà, il faut se faire une raison.
Elle est ailleurs.
C'est la vie, c'est comme ça. Changer de crémerie, changer d'équipe, c'est tout. Voilà. Nouvelle question, Misato-san. Alors question. La section Gameblog génère-t-elle beaucoup de trafic? On s'est posé la question, on est allé voir, et donc j'ai pris du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, donc l'année dernière, ça a généré combien? Ça a généré 1,2 million de visites, donc c'est pas colossal à l'échelle de Gameblog.
Mais c'est pas mal quand même.
Pour tout vous dire, ça fait moins de 2% des visites globales, mais 1,2 million de visites,
Pour un truc annexe qui est juste comme ça, une petite blague entre nous, etc.
Et qui est typique d'ailleurs de ce phénomène de parler des trucs et de faire des trucs qui nous font rire. Parce qu'à la base, ça part de toi qui fais ton jeu de mots à la con sur Gameblog, et basta, on dit
Gameblog, c'est très marrant. Voilà.
Et c'est tout.
Visiblement, ça fait rire beaucoup de personnes. Hein, 1,2 million de visites.
Il y a toujours des trucs super, super bien trouvés parfois. Qui font bien le buzz et franchement ça fait bien marrer ton
enfant. Et puis alors pour ceux qui posent la question, ouais mais ça a baissé ces derniers temps et tout, alors pas du tout, c'est totalement lissé. Il y a un pic tous les dimanches à midi quand il y a la Game Blague de la semaine, etc. Là c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes qui regardent tous les dimanches les Game Blagues, et pour rentrer dans les stats, c'est une des pages sur lequel le temps de visite est le plus long, c'est-à-dire que les personnes qui vont regarder les Game Blagues, ils en regardent 12 000, toutes seules de la page et celles des pages d'après. Donc voilà,
de la semaine, du mois, du jour,
ça marche très correctement et c'est un espace de divertissement rigolo.
Détente.
Alors la question de la personne, ce monsieur ou cette dame, je ne sais pas, s'appelle Bonjour. C'est son pseudo. Bonjour. En début de saison, vous aviez laissé entendre que cette dernière serait plus riche en contenu PC. Alors je vous pose cette question parmi toute la rédac. Quels sont les membres qui jouent sur ce support? Et selon vous tous, est-il possible que ce support ait une place un peu plus importante sur notre cher Gameblog.fr? Merci et bonne année 2011. Bonne année à toi.
Merci.
Bonjour.
Alors, les gens qui jouent majoritairement sur PC sont Fastkill, Caffeine, Fumble, Emmerich joue un petit peu sur PC.
Moi c'est surtout pour les point and click, mais pas pour le reste quoi.
Ludo joue pas mal sur PC.
Ludo joue pas mal sur PC aussi. Moi il faut que j'en rachète un justement pour cette année parce que j'ai plus de PC à la maison. Je joue encore sur Mac.
Résolution.
Ouais. Il faut que j'en rachète un parce que The Witcher 2 déjà. Et puis il va y avoir du bon gros jeu PC cette année encore.
The Witcher 2 finalement il sort pas sur console du tout.
Pour le moment ça n'est pas confirmé.
C'est dommage. Voilà.
Mais c'est pas grave, c'est un jeu que j'ai vachement envie de faire sur PC et pas sur console en fait.
Vous avez vu aussi que justement Fumble, Fastkill et CAF dernièrement, on les a invités de plus en plus souvent au podcast, enfin ils sont de plus en plus présents aussi sur le site.
Il y a aussi plus de news PC qu'avant.
Ouais, beaucoup plus.
Vous l'avez peut-être pas remarqué apparemment, mais il y en a plus, surtout sur la deuxième partie de l'année 2010.
Oui, des tests aussi. Hein.
Bah justement parce que.
Avec le renfort de Fumble.
Avec Fumble, voilà.
Et Fastkill de temps en temps.
Donc.
C'est un point
on peut mieux faire, certes.
On peut mieux faire, effectivement, ouais. Mais on a déjà progressé un petit peu par rapport au début de Gameblog, où c'est certain, on en est
c'était
bien conscient.
Très console.
C'était très console. Ça l'est encore raisonnablement beaucoup, mais on essaye. Gameblog est une aventure au long cours, vous le savez, et on vous écoute vraiment. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que non, mais je vous assure que si, ça ne se traduit pas dans les faits tout de suite, instantanément, mais. Voilà, c'est une entreprise, donc tout ne peut pas être décidé comme ça, à l'emporte-pièce. Et puis quand on décide un truc, il faut que ce soit pérenne chez nous. Quand on le décide, il faut que ce soit dans la continuité. Donc on réfléchit bien les choses. Question. Une double question, en fait, celle de Pierrick, qui demande « Pourquoi ne testez-vous aucun jeu iPhone-iPad ?» Et une question de fan de jeux. « Il existe pas mal de bons jeux dématérialisés. À quand une section spécialement dédiée à ça ?»
Il existe déjà un thème qui s'appelle actualité du téléchargement. Alors c'est un peu plus large que simplement les jeux dématérialisés.
On parle beaucoup des thèmes. Excuse-moi, c'est la deuxième ou troisième fois qu'on en parle du podcast et peut-être que les gens.
C'est pour ça qu'il faut qu'on en parle.
Il faut que vous alliez sur l'onglet dossier. Et dans cet onglet-là, vous allez trouver différents thèmas. Donc, c'est des regroupements d'articles par thème.
Comme business. Il
y a une page qui les.
Vous pouvez même trouver un lien direct. Quand tu es sur la home, le petit bloc dossier, sous le bloc dossier, il y a le bloc thème, si je dis pas de bêtises. Et là, il y a un lien vers tous les thèmes.
Et dans les articles qui font partie de ces thèmes, il y a aussi un lien dans la petite colonne avec tous les articles et les trucs connexes, avec le thème auquel il appartient, qui permet donc d'aller directement dessus et de voir tous les autres articles qui rentrent dans ce thème.
Actualité du téléchargement, voilà. Donc, pour les.
Actualité du téléchargement. Alors, certes, c'est pas seulement les jeux dématérialisés, ça va être aussi les DLC, ça va être tout ce qui concerne le téléchargement. Voilà. Mais il y a déjà ça, qui est donc une section spéciale dédiée à ça. Il y a aussi les tags qui concernent ça. Après,
pour les concernant tests, les tests et tout ça, c'est vrai que c'est pas si.
Je vois pas. Enfin, moi, peut-être qu'il faudrait qu'on y réfléchisse, mais je vois pas pourquoi est-ce qu'on traiterait ça différemment, forcément.
Mais d'ailleurs, en plus, il y a eu un test à Infinity Blade.
Oui, avec les tests iPhone. Oui, il y en a très peu, mais on commence à
très peu. On commence aussi.
On parle quand même. C'est quand même des gros jeux qui sortent.
Des trucs événements.
Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est effectivement.
Pas tous, c'est sûr.
Oh là là, l'erreur de débutant de Raon. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de tests encore écrits, etc. En revanche, on a essayé d'en parler dès qu'on fait des bilans, etc. Dans les podcasts, on en parle souvent. Enfin, souvent, c'est pas vrai, mais enfin, on en parle
de
parfois.
Temps en temps.
Et en 2011, c'est pareil. On va essayer d'en parler plus.
On va suivre
les on voudrait tout tester.
Mais oui, c'est pas qu'on veut pas.
Mais par contre, on continue à faire des news sur les jeux iPhone qui sortent. Ouais. On a des nouvelles, etc.
Sur le business de l'iPhone,
des
Android,
vidéos, des images, exactement.
Il y a tellement
de parler de
plus,
tout, c'est impossible. C'est impossible.
Enfin, c'est impossible aujourd'hui. Le jour où Gameblog aura marché, le jour où il y aura suffisamment de premium, le jour où la machine marchera, où Gameblog sera rentable, eh bien, on aura plus de choses, mais une fois de plus, et ce sera un peu la conclusion de ce podcast. On a besoin de vous. On a besoin que vous soyez fidèles au site. Les premiums, c'est une vraie chance que vous nous offrez. Donc voilà. Tous ensemble, en 2011, on va cartonner. Nous, on en est intimement persuadés.
Tout à fait.
On fait tout pour, en tout cas.
On fait tout pour. Mais il y a encore énormément de chemin à faire et c'est pas tous les jours facile. Gameblog n'a pas encore gagné le jeu vidéo un peu plus. Mais on s'en rapproche. On avance grâce à vous. Voilà, ainsi s'achève ce courrier des lecteurs.
C'est
volume
cool, les courriers des lecteurs.
3. J'aime bien.
L'inspiration. Ouais, on devrait les faire en public, tiens.
Mais c'est une idée. Peut-être que dans certaines sessions premium, il est possible que ça s'organise. Mais ouais, c'est important aussi comme ça, vraiment d'avoir un lien avec vous, de reprendre vos questions. On ne peut pas répondre à tout le monde. Certains diront, putain, ma question, elle était géniale. Et peut-être qu'elle les a dérangés, donc ils n'ont pas répondu. On ne peut pas répondre, on a fait une heure et demie dessus.
On a invité un super détracteur, un mec qui nous déteste vraiment.
Mais c'est ça.
Qui bâche en permanence dans les commentaires.
Mais vous l'avez vu aussi.
On répondre en direct.
Mais grave, vous l'avez vu, on est franchement sans langue de bois. On a répondu à des trucs où on dit que c'est un peu léger, machin et tout. On y répond le mieux qu'on peut, avec le plus de franchise.
franchise, c'est la marque Gameblog aussi. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast, les thèmes des semaines à venir. On sait pas encore exactement dans quel ordre. Avec Raan, au moment de la diffusion du truc, on partira le lendemain.
Ah oui,
ou même on sera actuellement même à Amsterdam, en train de tout savoir. On sera actuellement, voilà, mercredi.
Voilà, là
19.
Nous y sommes en ce moment.
Nous sommes actuellement, tel que vous nous entendez, vous voyez.
Ah, vous êtes
Amsterdam,
mais
ouais. En train de tout savoir sur la Nintendo 3DS. Pas moi. D'ailleurs, vous aurez toutes les news aujourd'hui sur le site. On va balancer des photos, on va faire des vidéos.
Cette nuit,
vous aurez plein d'infos. Vous savez peut-être même déjà combien coûte la 3DS et quand est-ce qu'elle sortira en Europe. Il y aura donc un sujet de podcast très bientôt sur les consoles portables vont-elles mourir. Il y aura aussi un très beau sujet de podcast sur le retour de l'arcade. Vous savez qu'il y a une salle d'arcade qui a rouvert à Paris et on va inviter pour l'occasion, et il va avoir un énorme tournoi, le World Game Cup qui va se tenir à Cannes. Fin février. Et ben on en parlera
avec
de l'événement.
Des spécialistes.
On vous en dit pas plus, mais vous verrez, vous allez vivre l'événement comme jamais avec Gameblog. On invitera l'organisateur de l'événement, plus un responsable d'une super salle d'arcade pour nous parler de ça. Et bien, c'est dans les prochains podcasts de Gameblog, une nouvelle année 2011 qui s'annonce chaude, bouillante. À très bientôt, jouez bien, portez-vous bien.
Salut.
Et Marcus, si tu nous entends.